Cube Radio.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous survivez à ce cocktail météo. On dirait que c'était pas une expression dont je m'ennuyais. L'expression cocktail météo, c'est toujours un peu drôlatique quand Météo Média nous la sort. Ça a l'air épeurant dit de même, mais effectivement, là, tout le monde est dans 1, la neige, 2, la gadoue, 3, la pluie. Donc, c'est un mélange de tout ça. J'espère que vous êtes prudents sur les routes. J'ai vu des autobus scolaires renversés. Je me suis demandé par ailleurs, parce que les écoles à Montréal ne sont pas fermées. Puis l'an passé, rappelez-vous, on avait ri des fermetures d'écoles. On s'était dit, ben voyons, non, ça n'a aucun bon sens d'avoir fermé les écoles. Il a juste neigé un petit peu là, à quelques reprises pendant l'année. C'est vrai que la commission scolaire de Montréal, cette année, est frue. T'sais, elle s'est dit, hey, on ne fera pas rire de nous autres deux fois. Donc ce matin, même si tout le monde se pétait à fiole ses trottoirs, kenini, les écoles n'étaient pas fermées aux plus grandes dames de mes enfants. Mais toujours est-il, j'aime pas ça commencer l'émission en parlant de météo, mais c'est pour alléger l'atmosphère parce qu'on est 6 décembre, et 6 décembre, c'est la commémoration de ce qui s'est passé à Polytechnique. Et vraiment, je me faisais la réflexion en m'en venant ce matin à la station de comment j'allais en parler. Parce qu'on dirait que t'as pas le choix de faire un commentaire sur les médias sociaux si t'es une femme. Si t'en fais pas, t'es une mauvaise féministe. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis en même temps, t'as envie de dire quelque chose, t'as envie qu'on s'en rappelle aussi, parce que je me disais, est-ce que mes enfants, mes deux filles, parce que mon fils est peut-être un petit peu trop jeune pour que j'aie cette discussion-là avec lui, là, savent c'est quoi la tuerie de Polytechnique. Et je textais ma plus vieille tantôt pendant qu'elle était sur son heure de lunch et je lui ai posé la question, est-ce que tu sais c'est quoi la tuerie de Polytechnique? Et elle m'a répondu non. Puis ça m'a surprise parce que dans ma tête, j'étais certaine de leur en avoir parlé. J'étais certaine de leur avoir expliqué ce qui s'était passé. Puis non, finalement, je me rends compte que j'ai pas abordé ce sujet-là. Donc, tu sais, c'est dommage, il y a quand même... ça a marqué une page très triste de l'histoire du Québec. Ça a été une prise de conscience aussi sur les actes anti-féministes. Et il faudrait pas qu'on oublie... Ces femmes-là qui ont perdu la vie, ces 14 femmes il y a 32 ans à la Polytechnique. Et j'ai envie de dire que cette année, pour moi, qui n'a pas été touchée par cet événement-là, en ce sens où j'avais 7 ans là, quand ça s'est passé, j'ai vraiment de vagues souvenirs d'images à la télévision, de voir mes parents aussi devant leur téléviseur plus longtemps que d'habitude, tu sais, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle aussi que ma mère semblait bouleversée de cette histoire-là. Ça a été long, par ailleurs, avant qu'on parle d'un acte anti-féministe, puis ce sera le sujet, d'ailleurs, qu'on va aborder avec une invitée un peu plus tard à l'émission qui a écrit un essai qui s'appelle « Jaillir les féministes » et qui un peu essayer d'explorer comment notre vision de ce qui s'était passé à Polytechnique avait évolué avec le temps. Et je disais, cette année, ça revêtait cet événement-là une signification particulière à cause des féminicides. Parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de féminicides cette année. Puis quand je dis qu'on en a parlé beaucoup trop, c'est pas parce qu'on en a parlé trop, c'est parce qu'il y en a eu trop. 18 féminicides cette année. Et ça m'a rappelé une étude que j'avais lue qui a été faite par l'ONU. Sur les féminicides, où on disait que la majorité des femmes, plus de la moitié des femmes qui sont tuées dans le monde chaque année, le sont majoritairement par leur compagnon de vie ou un membre de leur famille, faisant de leur domicile familial l'endroit le plus dangereux. Et je me rappelle que ça m'avait frappé, cette information-là, c'est-à-dire que le domicile familial des femmes, là où on est supposé se sentir en sécurité, c'est un lieu, en fait, c'est le lieu le plus dangereux pour les femmes qui vivent la violence conjugale. Donc, on va essayer d'aborder tout ça aujourd'hui à l'émission et on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Québec. On avait une annonce en fin de semaine de la ministre Guilbeault là, sur le racisme, le profilage racial, la formation dans la police. On aura un chercheur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal qui a écrit un livre avec, en fait, il est co-auteur du livre « L'avenir du travail policier ». Voir un peu comment les médias sociaux change la façon dont les policiers font leur intervention, mais la perception du public aussi, parce que on le sait, là, George Floyd, ça se serait jamais passé si on n'avait pas eu accès à ces vidéos-là. En fin de semaine dernière à Québec, mais pas celle qui vient de passer, mais l'autre d'avant, ces vidéos-là qui ont largement circulé aussi. Donc, qu'est-ce que ça amène sur la place publique? C'est quoi les répercussions? Les caméras corporelles, est-ce que c'est une panacée? Parce qu'il y a bien des gens, là, rappelez-vous, là, quand on a eu ce point de presse du chef de la police de Québec où on disait S'il vous plaît, si vous avez des vidéos de ce qui s'est passé en fin de semaine, envoyez-nous-les pour qu'on ait accès à l'ensemble de ce qui s'est passé. S'il y avait des caméras corporelles, bien, des gens qui se sont dit qu'on ne serait pas à avoir des demandes comme ça de la part de la police. Là, ce qu'on sait quand même, il y a eu des nouveaux développements là, sur un des agents en particulier à cause des vidéos. On dit qu'il aurait posé sensiblement un geste criminel. Là, on parle de pousser quelqu'un. Puis ça avait été dit là, très, très clairement là, que si on avait le moindre soupçon, ça serait amené jusqu'au DPCP. Donc, on va voir comment les vidéos peuvent influencer le travail de la police.
Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est ça. S'ils sauvent en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Oui, bonjour, Geneviève.
Bon, on commence cette semaine en parlant du procès de la belle-mère de la fillette de Granby qui touche à sa fin.
Oui, alors on est dans la phase finale, vraiment, là. Alors aujourd'hui, plaidoyer de la défense parce qu'ils ont présenté des témoins. C'est la règle. Lorsque la défense présente des témoins, on commence les plaidoiries. Ensuite, la couronne. Ensuite, les directives du juge, séquestration et du jury, c'est-à-dire qu'on les confine dans un endroit jusqu'à ce qu'ils rendent un verdict unanime. Alors aujourd'hui, la défense, évidemment, d'emblée, là, est revenue sur sa position et a mis en évidence le principe de notre droit canadien, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que si la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, toujours le fameux hors de tout doute, qui est le centre des dossiers en criminel, que, évidemment, toutes les infractions là, ont été prouvées à l'encontre de la belle-mère, avec l'ensemble de la preuve. Alors, il revient sur chaque témoignage, il soulève chaque question d'importance et il en vient à la conclusion que non, jusqu'à date, là, tel témoin appuie tel autre témoin pour dire que vous n'avez pas la preuve hors de tout doute raisonnable sur, par exemple, qui, où, quand, comment, pourquoi le ruban adhésif a été appliqué, et que madame n'a jamais eu l'intention de donner la mort à la jeune fille. Bon, alors, et toujours en l'appliquant avec les différents témoins. Alors, c'est comme ça qu'il défile la preuve présente, c'est-à-dire sa plaidoirie. La couronne demain, pour terminer rapidement là-dessus, va effectivement faire tout à fait le contraire et démontrer au jury qu'ils ont fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs des deux infractions en y allant de témoin en témoin, étape par étape. Après ça, on verra ce que le juge va faire avec tout ça.
Bon, c'est ce qui nous attend cette semaine, donc, dans ce dossier-là.
Oui.
On revient sur cette histoire avec le SPVQ. Là, on était rendu la semaine passée à 4 vidéos compromettantes où on voyait des interventions policières, entre guillemets, musclées, pour pas dire violentes. Et là, tout le monde se posait un peu la question, là, suite au point de presse. OK, mais pourquoi il n'y a pas une enquête du BEI, c'est-à-dire du Bureau des enquêtes indépendantes, parce que c'est grave. Et aussi, puis moi, j'étais de cet avis-là, là, la police qui enquête sur la police, tu sais, surtout quand on est dans une crise de confiance, qu'on a vu des vidéos circuler comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Et là, on apprend que ce sera effectivement le cas. Là, on annonçait ce matin qu'on allait demander l'aide du Bureau des enquêtes indépendantes.
Oui, parce qu'il y a, finalement, là, en ce moment, il y a 3 enquêtes qui se déroulent en même temps pour les différentes raisons. Par exemple, un à l'interne. Pour évidemment, qu'est-ce que c'est le corps de police, c'est-à-dire le SPVQ qui fait son enquête à l'interne. 2, il y a l'enquête déontologique qui continue parce qu'il y a des règles en déontologie policière et on prétend qu'elles ont été bafouées. Évidemment.
Oui, puis il a bien expliqué le chef de la police de Québec là, que s'il y avait des incartades et tout ça, on irait aux instances prévues à cet effet. Là.
Oui, alors la déontologie. Et là, on comprend également que il y a eu évidemment analyse de tout ceci. Et le SPVQ en est venu à la conclusion que, bon, dans leur enquête, il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que un policier, dans 2 situations différentes, aurait fort probablement, peut-être, commis un acte criminel, une infraction criminelle. Le BEI, son rôle, c'est les infractions d'ordre sexuel pour les policiers, lorsqu'il y a mort d'homme dans une intervention, évidemment. Il y a également, lorsque le... Ben, en fait, ici, c'est le pouvoir de la ministre de la Justice de dire... de la Justice, la ministre de la Sécurité publique de dire, écoutez, moi, je pense qu'il y a matière à ce que le BEI se prenne en charge ce dossier-là. Et c'est ce qui est arrivé. Le SPVQ a demandé à la ministre de la Sécurité publique d'intervenir et de demander au BEI. Donc, finalement, c'est comme ça que ça se retrouve dans les mains du BEI. Puis la quatrième étape, c'est le BEI qui va faire son enquête et demande l'aide et l'assistance du public. On a vu ça aujourd'hui, s'il y avait des gens qui ont des choses à dire dans les circonstances que de ce dossier-là à l'encontre de des accusations qu'on prétend qu'ils ont été commises, bien fournir les informations. Et en bout de ligne, c'est le DPCP seulement qui va prendre tout ça puis va décider s'il y a des accusations criminelles ou non et les déposer si c'est le cas.
Bon, on reste dans le variant. Nicole, les principales nouvelles qui se déroulent en ce moment par rapport à la justice. Paul Mukundi, finalement, qui se trouverait, comme on le soupçonnait, là, je crois que c'est au Congo, c'est ça?
Oui, apparemment qu'il est au Congo. Et ce qui est un peu désarmant là-dedans, puis qu'on a bien de la misère à comprendre depuis le début, un, pourquoi on le remet à liberté avec une sentence potentielle de 8 ans sur les épaules et sur la tête. Deux, qu'on l'a mis en liberté avec un ce qu'on appelle des conditions. Puis des conditions, là, c'est de signer, qui s'engageait avec sans dépôt, là, 50 000 $. Ben oui, mais on voit là, qu'il y a plein de dettes sur sa maison, etc. On n'avait pas vérifié beaucoup. Là. Il n'y a peut-être même pas de liquidité pour ça. Et avec un dépôt de 5 000 $. Ça, oui, il a été obligé de le déposer. Puis de ne pas présenter une demande de passeport. Mais là, il est parti par Toronto. Je ne sais pas, mais moi, ça m'inquiète parce que si quelqu'un réussit avec une ordonnance de la Cour, puis c'est juste deux jours après que la Cour d'appel a refusé d'entendre son dossier. Là, on s'entend, là, il savait très bien ce que ça voulait dire. Il fallait qu'il se présente à la prison. 8 ans de détention, même s'il pouvait faire une demande à la Cour suprême, lui a décidé qu'on était dans un système pourri au Canada. Là. Alors, dans ces circonstances, lui, la justice, il va se la faire, il va se l'appliquer, puis il va le décider, il va le juger, puis ça vient de finir. Là. Alors, dans les circonstances, il a quitté, puis là, on sait maintenant qu'il serait rendu là. Il va avoir un autre procès qui va être tenu exporté, qu'on appelle, parce qu'il est parti, il n'est plus là. Alors, on verra. Mais comment a-t-il fait pour passer les douanes? Comment on peut permettre à quelqu'un qui est dans ces circonstances-là, qu'on ne le sait pas, là? Ça veut dire qu'il était dans l'avion. Ça veut dire que moi, j'aime pas ça penser que n'importe qui, dans les circonstances, aurait pu quitter. C'est une question de sécurité aussi. Moi, je le comprends pas, mais ça, c'est pas mon domaine à moi.
Ouais, mais il y a eu des manquements quelque part et j'imagine qu'on va avoir des explications au cours des prochains mois, là, parce que, évidemment...
C'est parti par Toronto, en tout cas.
Ça pose toutes sortes de questions. Un article excessivement intéressant, Nicole, dans la presse dont je voulais parler avec toi, ça parle de l'effet du mouvement, moi aussi, sur le travail des juges. Et là, on va essayer de résumer parce que plusieurs aspects dans ce texte là qui sont, à mon sens, fondamentales. C'est de dire que les juges pénaliseraient plus sévèrement les agresseurs sexuels depuis le mouvement MeToo, hein, depuis cette prise de parole qui a eu lieu sur les médias sociaux. Certains juges ont fait une prise de conscience, là, à savoir, bon, ben si les victimes comme ça s'expriment par d'autres voix que la voix de la justice classique, c'est parce qu'il y a un problème. Ça, c'est la première chose. Puis la gravité des gestes aussi, là, qui... Puis on donne l'exemple de Michel Venn et de Léa Clermont-Dion, là, un attouchement sexuel peut-être qui aurait eu comme conséquence peut-être une autre issue là, si on avait été avant MeToo. Commençons par ça.
Oui, c'est très intéressant cet article-là parce que oui, on voit qu'il y a une prise de conscience et moi je l'entends sur le terrain.
Oui.
Il y a clairement une prise de conscience. Puis c'est pas que les médias et ou les médias sociaux font changer la décision. Et c'est que ça fait évoluer surtout. On l'a vu dans d'autres domaines.
C'est la perception.
C'est ça, les facultés affaiblies, par exemple, juste un exemple qu'on utilise souvent. Mmh. On n'avait pas la même perception de l'alcool au volant il y a plusieurs années, puis on évolue, ça a évolué en jurisprudence, ça a évolué dans la mentalité des juristes et des juges et de la Cour d'appel, de la Cour suprême, partout. Là. Ça fait une vague, ça, là. C'est pas si on travaille pas, ces gens-là peuvent pas se fermer les yeux, la magistrature et ou les avocats non plus, se fermer les yeux avec des ornières puis pas voir ce qui se passe. Alors oui, ça les a ébranlés, certainement. Et oui, je trouve qu'il y a des sentences, on en parle régulièrement ensemble, Geneviève, qu'il y a des sentences, regarde, une sentence qui semble être encore, tu sais, plus pesante là, dans telle circonstance. Puis il faut faire face à la réalité, là. 18 féminicides à date. On est la journée où il y a eu le massacre à la Polytechnique, ouais. Où il y avait 14 femmes qui ont été... Alors, on est 14 femmes dans un événement, puis 18 dans 10. Alors, les armes à feu, tout est en... Alors, tout ça pour dire qu'il y a un discours social qui atteint, peut pas ne pas atteindre la magistrature sans changer le droit fondamental. Mais c'est sûr qu'avec des arrêts comme Frizen pour les agressions sexuelles sur les mineurs, etc., ben oui, on voit une évolution, puis on voit des gens qui se mobilisent à la magistrature, puis qui ont des décisions plus importante là, au niveau des sentences.
Bon, il y avait la question des perceptions de l'évolution de la pensée. Il y avait aussi cette idée d'une justice qui est autre, en voulant dire que les gens ne se fient plus nécessairement seulement sur la justice aux criminels. Là. On donnait l'exemple de Simon Lamarre, dont on a parlé la semaine dernière, cet enseignant qui filmait l'entrejambe de femmes, d'adolescentes, qui avaient bénéficié, entre guillemets, d'une clémence. En tout cas, moi, je trouvais ça très clément. Là, tu nous as expliqué la décision, on le comprenait bien, du juge Jean-Jacques Gagné. Et après ça, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, s'en est mêlé, il a perdu sa licence. Donc, c'est toutes les conséquences qui sont en dehors du système judiciaire.
Tout à fait. Ça, c'est un très bon cas important parce qu'on se souvient, je ne trouvais pas que les paroles ou les phrases mentionnées pour une absolution conditionnelle pouvaient tenir. En tout cas, moi, j'étais pas.
On avait le risque de récidive modérée, une haine envers les femmes, quelqu'un qui se justifie. Bon, on fera pas le tour de tout ça, là, mais c'était incompréhensible.
C'est ça. C'était ses propos. Il avait le droit, puis il a tenté de le justifier en indiquant là, ce qu'on a dit, là, qu'il y avait beaucoup d'éducation, puis qu'on se priverait de ça. Mais justement, là, on en a un exemple. Ça n'a pas pris quelques heures avant le tollé de la réaction publique partout et de plusieurs analyses. C'est pas tout le monde là, qui sont... c'est pas parce que t'es pas juriste que les gens n'ont pas une belle vision ou une bonne vision là, quand même. Là. Alors, le ministre de l'Éducation, ben lui, il a pris sa décision. Il a dit, bon, ben, regarde, si on pense que ces études vont nous avantager, ben moi, je réponds par non. C'est un petit peu une plaque, là, on dira au jugement de l'absolution conditionnelle, là, il me semble. Là. Mais de toute évidence, là, comme ministre de l'Éducation, il faisait face à une situation qui n'était pas facile. Là. Alors, regarde, il n'enseignera plus, c'est tout. On lui a retiré. Alors oui, ça a des impacts à l'extérieur. Mmh. Et ça, faut vivre avec dans les temps.
Oui, puis il y a les normes du travail, il y a des ordres professionnels aussi qui pourraient être appelés à agir. Et le dernier point sur lequel j'avais envie qu'on insiste, puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus, c'est sur la définition des agressions sexuelles, parce que c'est très, très large en ce moment.
Hein? Oui, et c'est sûr que cette définition-là, bon, on n'a pas fini d'en entendre parler, là, parce que on entend parler des différents... Comment on peut être délicat en parlant d'agression sexuelle? C'est bien difficile, là.
Bien sûr.
Mais c'est sûr que il y a différentes sortes d'agressions sexuelles. Par exemple, toucher à une partie, juste un attouchement versus un viol.
Tape une fesse.
Ben, c'est sûr que dans la définition, puis je le sais pour l'avoir vécu, combien on est mal à l'aise comme juge d'expliquer dans une
décision. Oui, comme s'il y avait une gradation, que c'est moins grave, tu sais,
C'est terriblement grave pour la personne, la victime qui est assise dans la salle et qui entend là, la sentence qu'on est en train de prononcer en disant, c'est au bas de l'échelle. Pour elle, là, cette victime-là, là, c'est au top de l'échelle. C'est comme... Mm-hmm. Ça, t'sais, alors, il faut rester très délicat. Puis dans tout ça, oui, la discussion sur la définition. Mais est-ce qu'il y en a vraiment une définition? Je pense qu'il faut que ça englobe... d'abord, avant tout, là, c'est un voie de fait. C'est quelque chose qui relève du voie de fait, parce que toucher à quelqu'un sans son consentement, ben c'en est un voie de fait. Mais quand on double ça avec une intention reliée sexuellement, là, aux intentions sexuelles, ben c'est là que ça devient, tu sais, c'est là qu'on on encadre une agression sexuelle comme telle.
Très bien. Merci, Nicole. On se reparle demain.
À demain.
Bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
On parle de Polytechnique. Il en sera question d'ailleurs à plusieurs reprises pendant cette émission aujourd'hui parce que c'est important de se souvenir, de ne pas oublier le contexte, la façon dont ça a été reçu, cette tuerie anti-féministe. Et en début d'émission, je parlais des femmes qui ont perdu la vie lors de cette attente-là. Il faut pas oublier les blessés quand même. Là, on peut lire le témoignage de Nathalie Provost dans divers médias ce matin, dont la section Faites la différence du Journal de Montréal. 13 femmes qui ont été blessées, 13 femmes qui gardent des séquelles psychologiques, physiques de cet événement. Là, il ne faut pas oublier non plus les familles des femmes qui ont perdu les leurs, qui conservent assurément des séquelles, elles aussi. On est avec Mélissa Blais, qui est prof de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle a écrit un essai qui s'appelle « Jaillit les féministes » et qui porte notamment sur la tuerie de Polytechnique et sa nature profondément antiféministe. Madame Blais, bonjour.
Bonjour.
Je disais qu'il ne faut pas oublier les blessés, puis j'ai envie de dire aussi qu'il faudra surveiller la réception de la visite de Justin Trudeau aux commémorations. Là, on sait que par les années passées, il n'était pas vraiment le bienvenu, notamment à cause de la façon dont il gère le dossier des armes à feu au Canada, là.
Effectivement, écoutez, Nathalie Provost est davantage spécialiste que moi sur la question du registre des armes à feu. Là. Moi, ce que j'ai pu documenter, c'est qu'à l'origine, on a très peu parlé du fait que ce registre aidait, soutenait les femmes victimes de violences conjugales, notamment parce qu'il était plus facile de par ce répertoire là, des hommes possédant des armes. Là, il était beaucoup plus facile d'aller d'intervenir et de savoir que la personne est armée, donc d'évaluer le niveau de dangerosité.
Bien sûr. Madame, moi j'avais 7 ans quand ça s'est passé, Polytechnique. Je garde pratiquement aucun souvenir de cet événement-là. J'ai été marquée, là, comme bien des enfants, par les images, les reportages qu'on voyait à la télé, les directs. Mais ce qui m'a marquée surtout pendant les années qui ont suivi, c'est la façon dont on a parlé de la tuerie au fil du temps. On a eu des hésitations au départ à parler d'un acte antiféministe.
Ah, bien sûr, c'était, disons que les journalistes, là, je pense à Francine Pelletier notamment, qui en a parlé, mais elles étaient vraiment marginales.
Oui.
En fait, il y avait quasi un consensus là, de la part soit de journalistes, de policiers, d'intervenants sociaux divers et multiples, pour dire que le tueur était fou, en fait.
Oui.
Le tueur était fou et c'est comme ça qu'on essayait de banaliser.
D'expliquer aussi l'inexplicable.
D'expliquer l'inexplicable, c'est un peu trop difficile en fait d'entendre un tueur qui écrit une lettre de suicide dans laquelle il dit qu'il veut tuer toutes les féministes. Donc évidemment, il y a le choc, il y a la proximité avec l'événement, mais ce que le tueur disait aussi, c'est qu'il menaçait en fait des féministes à qui on devrait peut-être et entendre ce qu'elles ont à dire en termes de prévention de violence et de lutte contre les violences faites aux femmes, plutôt. Mais toujours est-il que oui, on a tenté de soit marginaliser ce que disaient les féministes, de dénigrer même ce que disaient les féministes en disant, par exemple, que le tueur souffrait d'une mère castrante ou il n'arrivait pas à se lier d'amitié avec les jeunes femmes, donc c'est à cause d'elle, s'il était en crise. Et ceci faisait écho, surtout dans les années 2000, un discours de la crise de la masculinité où on prétend que les femmes et les féministes auraient occasionné un désarroi chez les hommes.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, Mme Blais. Là, il y a des gens qui soulignent aujourd'hui qu'avant de commencer à tirer, Marc Lépine a parlé de féministes, justement, a dit quelque chose comme « Vous êtes toutes des féministes et je déteste les féministes ». Il y a la question du tabou aussi, de la part de l'école elle-même, de Polytechnique, là, qui... pas essayer de museler les gens, mais la blessure était tellement vive qu'on a, je pense, voulu apaiser les affaires en disant aux gens que c'était peut-être mieux de pas trop en parler. Est-ce que je me trompe?
Non, vous vous trompez pas. En fait, il y a aussi l'Église catholique qui s'est mise de la partie pour dire aux féministes, taisez-vous. Parce que vous ne respectez pas la mémoire, en fait, ou le deuil des parents des victimes. Or, on voyait dans les médias qu'il y a des sœurs de victimes, des parents de victimes qui disaient non, au contraire, il faut en parler. Donc, puisque c'était pas du tout ancré sur un besoin, dans un besoin particulier, on voit là une façon aussi de vouloir marginaliser, banaliser l'événement en disant si on en parle trop, ça pourrait, en fait, nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes et les luttes nécessaires, en fait, qu'on doit mener comme en termes de campagne, de sensibilisation, de prévention pour justement faire cesser ces inégalités.
En parler de ces femmes-là, mais les nommer aussi, parce que tout le monde connaît le nom Marc Lépine, mais à peu près personne peut nommer les victimes. Ça, c'est quand même fou, là.
Effectivement, puis vous savez, il y a une psychologue, sociologue que j'aime beaucoup, là, je vais la nommer, Patricia Rumito, elle a étudié ce phénomène de déshumanisation, en fait, largement répandu quand c'est des meurtres de femmes, notamment, mais aussi de personnes racisées, où on les nomme jamais, et le fait des nommer, au contraire, en psychologie sociale, c'est démontré que ça ouvre à l'empathie. Ça permet davantage de prévention parce que, justement, on a des noms, des visages et des histoires derrière les murs de femmes.
Oui, bon, puis là, vous parliez des explications qu'on tentait de donner à propos de Marc Lépine, là, de ses problèmes, de la crise, de la masculinité. À partir de quand le discours commence à évoluer par rapport à ce qui s'est passé à Polytechnique? À partir de quand on commence à nommer le fait que c'est un attentat antiféministe, finalement?
Oh, ça a pris vraiment du temps. Puis encore là, je trouve qu'on peine encore, malgré tous les efforts, là, depuis le 30e anniversaire. Je pense que la Ville de Montréal a marqué le coup aussi avec le changement.
En 2019.
En 2019, accepter de changer la plaque commémorative, là, la plaque du parc du 6 décembre, pour enfin indiquer qu'il s'agissait d'un attentat féministe. Écoutez, j'ai étudié 1999, c'est-à-dire la réception médiatique, les analyses, comment justement la mémoire collective bougeait un peu entre 1989-1999. J'ai vu qu'il y avait certains changements grâce aux féministes qui commémoraient année après année. Puis bon, les changements étaient minimaux, hein, c'est-à-dire qu'on parlait moins de la folie du tueur, on parlait un peu plus de sa misogynie. C'en est suivi un peu un même changement plutôt positif pour le 20e, les 20e année de commémoration. Et puis, de fil en aiguille, ce que j'ai à dire, c'est que c'est grâce aux féministes qui insistent année après année pour dire, écoutez, ça s'inscrit dans un vaste continuum des violences contre les femmes qui inclut des violences extrêmement banalisées comme le harcèlement de rue, par exemple, qui inclut ça et qui va aussi inclure les meurtres de femmes. Mais moi, j'ai envie de répondre que, certes, ça s'inscrit dans un continuum, puis on le voit bien, les conjoints violents, quand ils perdent le contrôle sur leur cible, quand les victimes s'émancipent, on voit aussi qu'ils deviennent de plus en plus dangereux. Il y a un risque, en tout cas. Il y a un potentiel de risque. Et donc, l'émancipation des femmes, c'est aussi un problème pour les hommes violents. Certes, je le conçois. Une violence politique, la violence de Polytechnique. Les cibles ultimes, c'était les féministes. Il l'a dit, il l'a répété dans sa lettre de suicide. Et c'est une violence politiques précises qui persistent dans le temps.
Oui.
Et je pense que si on n'insiste pas suffisamment sur ce qu'il faut faire, en termes de prévention notamment, et d'intervention directe pour faire cesser cette violence antiféministe, notamment sur le web, eh bien, on rate un peu.
Mais parlons-en.
À côté de quelque chose.
Parlons-en de la violence sur le web. Puis tu sais, je disais en début d'émission que cette année, j'avais l'impression que Polytechnique allait peut-être être... revêtir une signification un peu différente à cause des féminicides qu'on a au Québec. T'sais, on dirait qu'on en parle davantage de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes, puis de la violence sur Internet aussi. Moi, j'ai fait une entrevue il y a à peine quelques années avec un homme, un incel, qui me parlait de la liste de Marc Lépine, qui me disait, moi, j'aurais des noms supplémentaires à mettre dessus. Et il le tient, s'y trouverait sans doute. Il y a encore des hommes aujourd'hui qui voit ce personnage-là comme un héros.
Oui, tout à fait. C'est très inquiétant. Bon, ça date d'avant le développement des médias sociaux. Moi, j'ai documenté le phénomène qui existait sur des blogs là au début des années 2000. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une héroïsation toujours en cours du tueur de Polytechnique. Et c'est pas le seul, en fait. Il y a comme un panthéon de tueurs. Les incels vont aussi se souvenir, ou en tout cas commémorer Elliot Rodger aussi, qui est comme un peu celui qui est vu comme le héros des incels.
Puis l'attentat à Toronto aussi, là, au camion Bélier, visait des femmes.
Ouais, effectivement. Puis ça, bon, c'est particulier chez les incels parce qu'ils pensent que parce que les femmes leur ont refusé de coucher avec eux, ils sont en droit en fait d'assassiner des femmes. Donc ça, c'est assez particulier comme discours en fait, qui s'inscrit aussi dans une logique. Ma foi, très biologisante, là, où on prétend qu'il y a des gènes chez les femmes, des gènes chez les hommes qui conditionneraient certaines femmes à ne pas être attirées envers des hommes génétiquement moins performants, là, disons-le comme ça. Je m'égare un peu, mais toujours est-il que cette violence antiféministe, elle est aussi présente hors ligne. J'insisterai jamais assez pour répéter qu'il faut penser tout le déploiement en fait d'un arsenal antiféministe en ligne avec ses tactiques notamment d'attaques et de menaces de viol comme la prolongation de tactiques antiféministes qui existent hors ligne et qui existent depuis plusieurs années. Et en fait le web leur sert de lieu de réseautage, certes, c'est plus facile, mais c'est vrai pour d'autres mouvements, disons plus progressistes. Les féministes aussi arrivent davantage à se reconnaître, se connaître grâce aux médias sociaux. Mais en fait, c'est que à travers ces milieux plus marginaux, grâce à l'anonymat aussi des internautes qui vont proférer des menaces, il semble y avoir là une virulence qui se dirige un petit peu plus vers le web et qui semble un peu moins présente hors ligne. Mais j'ai questionné récemment des féministes qui continuent à recevoir des menaces et qui subissent encore.
Mon Dieu, parlez-moi-en au quotidien, des menaces de viol, des menaces de mort, des propos très, très violents. La plupart des journalistes femmes en reçoivent. C'est terrible à dire. Et là, je veux absolument qu'on se parle parce qu'on parlait à quel point dans le continuum temporel, on avait des idées là, concernant les femmes qui étaient encore bien ancrées peut-être dans l'inconscient collectif. Ce texte qui a été publié par le journal étudiant de l'École de technologie supérieure qui s'appelle Martine va à l'ETS, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'est inscrite à Polytechnique, qui a échoué ses cours et qui finit par les abandonner pour aller cuisiner des chaussons aux pommes dans une boulangerie. Un texte qui a été publié, c'est ça, c'est un journal étudiant. Là, on peut peut-être excuser la maladresse, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça avait aucun sens de publier un tel papier quelques jours à peine avant les commémorations. Là, ça a été très mal reçu par les étudiants de l'ETF.
Oui, puis même si on ne peut pas prétendre de l'intention, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son intention,
non.
Sa parodie, comme vous le dites, était maladroite.
On dit que c'était maladroit, puis tout ça, mais bon.
Mais en fait, l'effet de ce type de texte, c'est ça qui m'intéresse, moi.
Okay.
Quel est l'effet, la réception? Et je pense que, en fait, on peut le voir que de véhiculer des propos où on prétend encore que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, en fait, ça apparaît comme un archaïsme. C'est de plus en plus difficile, en tout cas, je pense, pour des antiféministes, de prétendre que les femmes sont moins intelligentes. Il y en a qui le font. Mais si on veut être considéré crédible devant un large public, on doit s'adapter aux luttes féministes. Alors aujourd'hui, comparativement aux années 20, on dit plus que les femmes sont pas intelligentes ou moins intelligentes que les hommes, on dit qu'elles sont différentes. Puis c'est plutôt à travers ce discours de la différence marquée par la nature, où les femmes seraient confinées à des rôles de douceur, que là, on voit la misogynie persister dans le temps, ou le sexisme persister dans le temps.
Bien sûr.
Mais de là à parodier l'intelligence des femmes, bon, comme je vous dis, l'intention, on n'en sait rien, mais au niveau de l'effet, il faut pas s'interroger outre mesure pourquoi ça a été reçu de cette façon. Les femmes à Polytechnique, elles étaient 19% au moment de l'attentat. 19% de personnes étudiantes, de femmes étudiantes à l'école Polytechnique, et pour l'épine, c'était déjà trop. 19%. Elles sont 15% de femmes en génie, comme ingénieures. Et on considère encore une fois que c'est trop quand on est du point de vue des antiféministes. Alors, voilà.
Ben oui, ben je pense que c'est un exemple assez probant là d'à quel point la misogynie peut s'insérer et se perpétuer de façon subtile parfois, mais bien présente. Mélissa Blais, merci. Je rappelle le titre de votre essai là, pour ceux qui seraient intéressés, allez le lire. Ça s'appelle « Jaillir les féministes ». Madame Blais, qui est professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Alexandre Moranville, où est-ce que t'es là? Salut Alex.
Salut Geneviève.
Bon, on se parle de vaccins. Si on a discuté avec Vincent Dessureau d'Américains qui voulaient se dévacciner en prenant un bain, on est un peu dans la même veine aujourd'hui avec ces Allemands qui se font injecter un vaccin fait maison. Hein?
Oui. Vaccin fait maison.
Est-ce que la recette est sur Pinterest?
Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que la recette a effectivement été partagée par le passé par cet homme-là.
Oui.
Un homme, puis pas n'importe qui, un Allemand. On est en Allemagne du Nord, dans la ville de Lübeck. OK? C'est un homme qui est devenu extrêmement riche en vendant une compagnie qu'il avait. C'est un homme qui, du nom de Winfried Stocker. J'espère que je le prononce bien. Mon allemand
sûrement
est pas parfait.
Pas, mais c'est pas grave.
C'est un docteur. C'est un entrepreneur. Il avait sa propre entreprise qui s'appelait Euroimmun. Et cette compagnie-là, il l'aurait vendue par le passé pour à peu près 1 milliard d'euros. Donc, il s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une compagnie pharmaceutique. Il est extrêmement riche. Il possède l'aéroport de la petite ville de Lübeck. Il possède sa propre ligne aérienne dans cette ville-là. Et lui, il y a déjà quelques mois, a fait les manchettes en Allemagne parce qu'il l'a affirmé avoir développé un vaccin contre la COVID-19 par lui-même dans ses labos, et de sa crédibilité de docteur, il l'utilisait pour faire la promotion de ce vaccin-là, disant qu'il était 97% efficace et l'a rendu disponible en ligne.
Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Curiosité, tu le sais-tu?
Écoute, j'ai...
La barbe de chauve-souris, du sang de crapaud...
Mais c'est tous des ingrédients qui ont...
La peau de serpent...
C'est des ingrédients qui ont l'air bien.
Qui ont l'air scientifique.
Bien, qui ont l'air, là, les mots le sont, mais évidemment, faut bien connaître pour savoir que c'est dangereux,
c'est
évidemment,
de
donner un vaccin comme ça qui est non homologué. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, la police ont expliqué avoir démantelé à l'aéroport que lui possède, ben, un centre de vaccination secret lui avait développé. Quand ils sont arrivés là-bas, il y avait à peu près 150 personnes qui attendaient dans le hall de l'aéroport pour aller se faire vacciner.
Mais pourquoi ne pas se tourner vers le vrai vaccin? Parce qu'ils ont l'impression que celui-là est plus sécuritaire. Je veux dire, la gang fait des chandelles puis des savons là, pris sur Internet. Pas un vaccin!
Ben, c'est là que c'est fascinant. Tu sais à quel point je m'intéresse à ce genre de sujet-là. Ben, c'est parce que c'est un vaccin qui n'est pas considéré comme un vaccin ARN messager.
Le fameux ARN messager,
c'est un vaccin qui... technologie qui fait peur aux antivax, beaucoup qui pensent que ça va aller changer leur code génétique, entre autres. C'est complètement faux, je le rappelle, mais il y a des gens qui pensent ça. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui se méfient du Big Pharma, hein, des grandes compagnies pharmaceutiques qui pensent que Pfizer, Moderna de ce monde sont là uniquement pour nous exploiter, pour nous tuer avec leurs vaccins dans certains cas. Et donc, en se méfiant des grandes institutions comme ça, vont préférer se tourner vers un homme comme ça, un médecin indépendant, honni par la science. Évidemment, plus les autorités médicales allemandes vont se retourner contre lui, plus les gens vont vouloir aller chercher son vaccin en disant que c'est la preuve.
C'est un martyr. Docteur Raoul, par ailleurs, il y a des instances médicales à l'échelle planétaire là, qui l'ont blâmé famille, là, ça se passe plus très, très bien pour ce médecin qui se décrit comme étant avant-gardiste.
On a bien vite réalisé que ce que lui a avancé sur l'hydroxychloroquine, c'est vraiment pas bon. Vrai. Il a changé toutes sortes de statistiques dans ce qui avançait. Donc, c'est sûr que c'est dangereux. Puis en ce moment, on regarde là, du côté de cet homme-là. Puis c'est drôle parce que les quatre qui ont été arrêtés, c'est lui qui a 74 ans. Puis les autres ont 81 ans et 64 ans. Je trouve ça très drôle. Le club de ces quatre hommes qui sont pas nommés les autres, qui tentaient de faire vacciner le monde à l'aéroport. Bon. Mais on dit qu'il y a quand même une cinquantaine de personnes qui ont été vaccinées. Il y en avait 80 autres qui attendaient juste en bas dans l'espèce de sous-sol pour se faire vacciner.
C'est fascinant.
Donc, c'est assez fascinant. Évidemment, ils vont aller à procès parce que c'est illégal de donner un vaccin pas homologué.
Crypto-monnaie, on en parle de plus en plus. Ça se mainstreamise pour utiliser un très bon français.
Oui, c'est bien dit.
Il y a des gens qui conservent des peurs par rapport à tout ça. Et moi, quand je dois t'avouer, Alex, que tu sais, les histoires de personnes qui oublient leurs clés, perdent leurs clés.
Ah oui, puis ils n'ont plus le code, puis il faut qu'ils retrouvent.
Non, mais c'est parce que puis il y en a un gars en Inde, genre, il reste juste une chance de trouver son mot de passe, puis on parle de milliards de dollars, ou je ne sais trop, là, c'est une somme quand même assez considérable. Il y a le vol aussi, là, c'est encore trop, c'est trop incertain pour la fille comme moi qui perd tous ses mots de passe. Tu demanderas à Fred, là, 200 fois par jour, je sac parce que j'oublie mes mots de passe Vidéotron.
Écoute, je partage ta fascination un peu morbide pour les crypto-monnaies, parce que moi, je trouve ça complètement.
Puis il y en a ça. De bizarre, là. Vincent parlait de la monnaie Shiba Inu.
Ben oui.
Il y a des trends, là.
Ben oui, puis il y a des crypto-monnaies qui naissent en une journée, qui montent de manière fulgurante et tout d'un coup, ça fait 1, 2, 3, 0. On tombe à 0 d'un seul coup de la valeur des crypto-monnaies. Donc, quand on dit volatile, hein, c'est vraiment.
Mais tout le monde est super enthousiaste par rapport à la Podgate, puis au fait qu'il y a vraiment des histoires où des gens ont fait des sommes d'argent absolument incroyable.
Et où
en
ils en
très
ont perdu, on les entend souvent moins, ceux-là, mais il y a des gens qui ont perdu
l'histoire
beaucoup
d'argent. L'histoire de réussite, là, puis les coachs financiers de crypto-monnaie là, sur Internet, il y en a un champ et une barge.
Mais là, ce qui retient l'attention en ce moment, puis c'est ce qui me fascine, c'est qu'en ce moment, ben, ça fait deux fois en deux semaines qu'il y a d'énormes vols de crypto-monnaie. Tu sais, absolument un vol d'argent, moi, quand j'imagine, tu sais, c'est les
valeurs de banque,
toujours.
Là,
les valeurs de banque.
On défonce un coffre-fort.
Le coffre-fort, le chalumeau, les masques.
Ils ont le plan, là, comme dans Ocean's 12. Là.
Exactement. Moi, c'est toujours ça que j'ai comme image en tête. Mais là, c'est des hackers. Hein? C'est vraiment des pirates informatiques qui volent. Et là, ça a été annoncé ce matin. Aujourd'hui, c'est la plateforme BitMart qui... D'ailleurs, ce brand comme la plateforme la plus sécuritaire pour échanger de la crypto-monnaie, ce qui est très ironique jusqu'au jour où ils se sont fait voler, pas moins de entre 150 millions et 200 millions de dollars de crypto-monnaie qui viennent d'être volés. C'est ça, c'est énormément d'argent.
Puis t'as pas vraiment de recours, là. Il n'y a pas d'assurance. C'est pas comme si tu te fais voler ton argent parce que la banque se fait hacker, là.
Ouais, puis il n'y a pas la fameuse bombe de couleur, tu sais, qui explose dans les billets, là, comme on a déjà vu à la face des voleurs.
Ah, oui,
tu peux pas faire ça sur de la crypto-monnaie parce que c'est intraçable. C'est virtuel, c'est presque intraçable. Et donc, ben, c'est 150 millions de dollars en Ethereum, d'autres crypto-monnaies qui ont été volés. Semaine dernière, 300 autres millions de dollars en crypto-monnaie qui ont été volés sur la plateforme Protocol Badger DAO et une autre. Donc, c'est des vols massifs. Ça part dans l'air, sur Internet.
Oui, puis j'imagine que les techniques d'enquête, justement, pour retrouver la trace de cet argent-là ne doivent pas totalement être au point, étant donné que c'est un vol relativement nouveau puis une technologie nouvelle.
Exactement, puis on en apprend sur ces procédés-là de plus en plus. Oui, la justice parvient à en attraper. Le mois dernier, 17 novembre, c'est un ado ontarien qui a été attrapé avec 46 millions de dollars de crypto-monnaie volée. Donc, ça se fait, mais c'est difficile.
Bon. Quand on a commencé à parler de ce fameux variant Omicron, on disait à la blague que ça ressemblait au nom d'un groupe de musique. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Omicron.
Omicron, c'est bien connu quand
même. OK, mais est-ce que c'est le groupe dont tu nous parles aujourd'hui?
Non.
OK, il y a un autre groupe qui s'appelle Omicron. Là. Ça devient mêlant, Alex. Là.
Après l'histoire de Omicron qui existe bel et bien, il y a des gens qui ont trouvé un groupe Omicron qui était à Hong Kong, mais depuis 2016, ils sont plus ensemble. Alors, tout le monde est un peu déçu, mais... Ne perdez pas espoir, fans de coïncidences, parce qu'il y en a un en Belgique.
Un groupe Omicron?
Un groupe de métal qui s'appelle Omicron. Et eux, qui n'ont jamais voulu se nommer comme ça à cause de la lettre grecque, qui ont été rencontrés par le média Vice. Ils ont donné une entrevue en expliquant que c'est un lourd fardeau à porter, mais qu'ils allaient le faire, qu'ils ne voulaient pas capitaliser sur le malheur des gens et que le variant Omicron, ironiquement, nuisait au succès du groupe Omicron. Mais tout de même, ça va peut-être propulser leur carrière.
Oui,
c'est ce qu'ils ont dit.
On se laisse sur un extrait de leur musique, Alex.
Vous allez voir, c'est savoureux.
C'est un peu rough quand même. Attention.
Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
Bon, on revient sur cette histoire de la police de Québec, ces vidéos qui ont fait la manchette, qui continuent de faire la manchette. Là, on disait tantôt qu'il allait y avoir d'ailleurs une enquête indépendante qui allait être menée, à savoir justement s'il y avait des gestes criminels qui avaient été posés par les policiers lors des interventions. Et vraiment, ce qui nous a frappé lors du point de presse de la police de Québec, c'était que la police était à la recherche de vidéos et à quel point les gens ont tout de suite sauté sur la conclusion selon laquelle, bon, les caméras corporelles seraient la solution peut-être à tous ces problèmes-là. Des vidéos qui mettent en scène des interventions policières, on en a eu plusieurs ces dernières années. Là, la plus célèbre d'entre elles, malheureusement, étant sans doute celle où on a vu George Floyd. Mais bon, il y a cette utilisation qu'on fait des médias sociaux qui a changé la face du monde. Les policiers n'y échappent pas. On va parler de ça avec Francis Fortin, qui est prof à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a coécrit un livre qui s'appelle « L'avenir du travail policier », chapitre qui porte sur l'utilisation des médias sociaux par les différents corps policiers. Fort intéressant. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour.
Bon, je vous posais la question à savoir comment les différents corps de police utilisent les médias sociaux aujourd'hui.
Ben oui, écoutez, ça a été toute une histoire d'apprentissage. Hein? Les médias sociaux sont arrivés, ont amené des nouvelles façons de communiquer. C'est vrai pour tous les corps de police au Canada, aux États-Unis. Mm-hmm. Je peux commencer par une belle anecdote. Un des premiers contacts que la police de New York a eu avec les médias sociaux, ils l'ont appris à la dure, disons, dans leur cours. Ils devaient se faire proposer d'engager la communauté. Un tweet qu'ils ont fait, il y a déjà quelques années, ils ont dit, ben, racontez-nous votre meilleur souvenir ouais. avec la police de New York.
Et ben,
je laisse imaginer.
Oui, c'était pas des bons souvenirs, hein, Monsieur Fortin.
Exactement. Alors, simplement, ça illustre un apprentissage difficile.
Ouais.
Mais ceci dit, il y a des bonnes utilisations des médias sociaux. On l'a vu pendant, souvenez, le printemps érable, où là, on avait quelqu'un du SPVM dont la fonction principale était justement dirigée de communiquer avec les manifestants. Là, certains auditeurs doivent peut-être se rappeler qu'à un moment donné, on apprenait par Twitter qu'à partir d'un certain moment, la manifestation avait été déclarée illégale.
C'est vrai. On l'a vu aussi, M. Fortin, à l'occasion, là, malheureusement, où on avait des tireurs qui se promenaient dans certains secteurs. Là, on a eu un incident dans les provinces maritimes. Malheureusement, il y a eu des décès, mais la police qui servait des médias sociaux pour dire à la population, restez cachés, voici dans quel secteur ils se trouveraient. Donc, ça peut permettre tout ça. Il y a le côté se rapprocher de la population aussi, là, dans ce que vous appelez la police de proximité. Ça, c'est le côté positif, mais c'est drôle. Vous me parliez de l'anecdote de New York où les gens ont, bon, visiblement, en ont profité pour raconter leurs expériences plus ou moins positives avec la police. C'est ce qui nous intéresse peut-être un peu aujourd'hui dans la discussion que je vais avoir avec vous. Les citoyens qui servent des vidéos qu'ils prennent sur leur téléphone intelligent pour mettre en lumière des comportements qu'ils jugent abusifs, comme ça a été le cas en fin de semaine dernière, pas celle qui vient de passer, l'autre d'avant, avec la police de Québec, là.
Ouais, ben ça c'est certain que ça devient quelque chose d'instantané. Tu sais, je pense que anciennement, dans l'ancien temps, comme on pourrait dire,
ouais.
c'était difficile de passer, là, si vous voulez, de capter des images, puis trouver une façon de les faire diffuser.
Mm.
Mais avec les médias sociaux, on parle d'un cycle là, qui dure quelques secondes, puis rapidement, ben comme l'expression consacrée, ça devient viral. Puis ça donne parce que ça, quand même, c'est pas un phénomène qui est nouveau. On parle beaucoup d'une espèce de journalisme citoyen
ouais.
où à peu près tout le monde peut être témoin de quelque chose, puis rapidement, on n'a plus besoin de plateforme ou de validation de contenu ou de contexte. On peut facilement l'envoyer comme ça dans la nature, mais encore une fois, là, je vais avoir l'impression de répéter ce qui a été dit là, dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans l'actualité, mais sais, il nous manque toujours un peu de contexte, hein. Puis on a des vidéos qui ressortent, mais qui datent pas nécessairement des événements récents. Donc, ça devient difficile là de démêler.
De faire la part des choses.
Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que encore une fois, on a la difficulté à établir les faits. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Qu'est-ce qui est arrivé après? Mais aussi, puis en même temps, là, je veux pas nier ce qu'on a vu à l'écran. Mm-hmm. Mais il reste que tous ces gens-là, tout le monde a droit à un procès, à essayer de comprendre le contexte.
Oui, c'est que ça donne lieu parfois à un tribunal populaire, mais je fais un petit peu de pouce là-dessus, M. Fortin, parce que je trouve ça intéressant, cet aspect-là. Le fait d'utiliser les médias sociaux comme porte-voix, c'en est un côté positif parce qu'on a une prise de parole par rapport à des groupes qui sont marginalisés. S'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait jamais su ce qui s'est passé avec George Floyd, on n'aurait jamais su ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan. Donc, tu sais, en un sens, c'est un formidable outil d'énonciation aussi. Là, ça donne une voix aux sans-voix.
Ben, je pense que oui. Moi, je l'ai soutenu dans un article. On a regardé tout ce qui s'était partagé dans la foulée des événements de Floyd.
Ouais.
Et oui, effectivement, ça l'a soulevé d'une part l'abus. Je pense que là, je pense pas que j'arrive avec un scoop. Là, c'est l'abus qui a été évidemment dénoncé par les tribunaux.
Oui.
Et puis oui, ça donne une voix à des contextes, à des personnes qui n'en auraient pas eu autrement. Mm-hmm. Alors c'est une façon, mais il reste qu'effectivement ça l'a fait son chemin et ça a amené à l'arrestation et aux accusations là, dans le cas de George Floyd.
Oui, exactement. Puis le mouvement Black Lives Matter. Mais bon, il y a le pendant tout ça. Là. Revenons à ce qui s'est passé avec la police de Québec. Cette idée qu'il s'est passé quelque chose avant, après, sans vouloir minimiser les gestes qu'on a vus sur la vidéo. Là. Moi, je pense pas qu'il y a certaines des choses qu'on a vues là, qui sont enseignées à Nicolet, si vous voyez ce que je veux dire. Là. Puis on verra. Là. Il va y avoir une enquête indépendante qui va se pencher sur la question. N'empêche, quand on a un chef de police qui, en point de presse, demande à ceux qui ont des vidéos de l'incident qui impliquent Pacifique Nio Wizera, qui demande de les faire parvenir à la police parce que, selon ma compréhension, là, on veut avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est fréquent, ce genre de demande-là, selon vos recherches?
On a eu le cas classique. Hein? On a eu le cas classique des émeutes de la Coupe Stanley à Vancouver où, là, la police avait demandé... à tout le monde de balancer tout ce qu'il y avait comme image.
Mais c'est de la délation, c'est ça aussi que c'est, là.
Alors ça, on peut l'appeler de différentes façons, oui. Mais quand on a analysé tout ce qui avait été partagé par les gens lors de l'émeute, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une quantité astronomique d'images et on s'est retrouvé un peu victime de notre succès parce qu'effectivement, il y avait énormément de personnes qui avaient contribué, puis on a accusé des gens, puis alors souvent on va parler du terme anglais, le crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on va demander à la population, puis ça se passe généralement via les médias sociaux, ben on va demander à tout le monde contribuer, on est à la recherche de tel élément, et puis de manière générale, je sais pas comment le considérer, c'est probablement positif, j'imagine, si on veut essayer de faire la lumière, puis que la police lève sa main en disant on a besoin d'éléments de preuve, mais faites juste vous imaginer le nombre de moments où quelqu'un est en train de filmer en 2021 là, c'est
ouais, je comprends, mais pour moi c'est l'équivalent de la police qui disait dans le temps appelez-nous si vous avez des choses à dire là, parfois dans des cas super médiatisés, il y avait 500-600 appels puis tu avais des policiers qui passaient des heures à séparer les bonnes informations des informations qui valaient pas grand-chose là. Donc c'est l'équivalent pour moi 2021, mais si les policiers avaient des caméras corporelles, les gens ont l'air à penser que ça réglerait tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, les caméras?
Je serais embêté de... Moi, je pense qu'il y a deux côtés, évidemment. Mm-hmm. Mais ne serait-ce que pour peut-être sécuriser, puis donner un sentiment de confiance, je pense que ça... Puis de toute façon, peu importe ce que je pense, je pense que le Québec a décidé d'aller de l'avant. Je pense qu'on va regarder ce que ça donne à la situation spécifique du Québec.
Ouais.
On pourra en venir à établir si ça vaut la peine de poursuivre, mais je vois ça d'un bon œil.
Très bien, Francis Fortin, merci, qui est prof à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Alors, on rejoint Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Geneviève.
Salut, Sylvain.
Alors, évidemment, Polytechnique a marqué toute une génération. J'ai moi-même vécu le moment comme journaliste. Et c'est toujours, ça a été un des moments poignants, évidemment, de la carrière probablement de toute ma génération à moi. Là. Un des événements marquants, évidemment, Polytechnique, 14 femmes abattues à l'école Polytechnique. Ça fait 32 ans. Mm. On en parle encore. Il y a encore cette émotion-là. Tu as fait ta chronique là-dessus ce matin.
Bien, tu parles des femmes qui ont été assassinées. Il ne faut pas oublier les femmes qui ont été blessées aussi, évidemment, là, dans la foulée des commémorations souvent. Oui, c'est ça. Puis les familles aussi des femmes qui ont été assassinées sont des victimes, à mon sens, collatérales de cette tuerie anti-féministe. Puis bon, tu parlais, toi, Sylvain, tu l'as vécu comme journaliste. Là, je ne veux pas révéler ton âge, mais moi, quand Polytechnique c'est arrivé, j'avais 7 ans. Donc, j'ai des souvenirs assez flous de cette affaire-là. Je me rappelle de mes parents qui regardaient la télévision de ma mère qui était un peu consternée. Je me rappelle surtout la façon dont on a parlé de Polytechnique après. Tu sais, quand j'étais adolescente, quand on faisait des commémorations, ça a été très long avant qu'on parle d'un geste anti-féministe. Ce qui ressortait au début, puis ce qui était frappant, c'est un, le tabou. T'avais l'école Polytechnique là, qui voulait pas réveiller la douleur. Ça a été un incident, évidemment, qui était éminemment... c'était d'une violence sans nom. Donc, ça a défrayé la manchette pendant des mois. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y avait une espèce de... d'espèce de sentiment d'avoir une pudeur, tu sais. Donc ça, je pense qu'il y avait beaucoup de victimes aussi, de familles de victimes qui disaient, ben non, faut en parler, faut pas oublier ces femmes-là, parce que je sais pas si tu as remarqué, moi, à chaque année, j'essaie de trouver une façon d'en parler de Polytechnique, parce que ma fille ne sait pas c'est quoi. Je me suis rendu compte de ça tantôt. J'ai dit, c'est terrible, faut pas oublier ce qui s'est passé. Elle a 15 ans et tantôt, je l'ai texté parce que je savais qu'on allait en parler ensemble. J'ai dit, mais toi, est-ce que tu le sais, c'est quoi Polytechnique? Puis elle me répond du non. Puis j'avais vraiment l'impression qu'on en avait parlé ensemble. Donc non, il ne faut pas les oublier. Puis on connaît tous le nom du tueur, mais on est très peu, puis moi je ne pourrais pas les nommer de mémoire, les victimes de cette tuerie-là, il ne faut pas les oublier. Donc ça, maintenant que c'est dit, comment on en parle aujourd'hui? Puis tu sais, c'est seulement en 2019, Sylvain, que Montréal a changé, si on veut, la plaque là, commémorative concernant Polytechnique en avouant finalement que c'était un attentat anti-féministe, parce que longtemps on a essayé d'expliquer par toutes sortes de raisons, hein, ce qui avait poussé Marc Lépine à poser ce geste-là. Des gens même qui, pas essayaient de l'excuser, mais essayaient de comprendre. Tu sais, parlaient de la crise de la masculinité, disaient, bon, il y avait des problèmes, il n'avait pas été accepté, comme si ça justifiait quoi que ce soit, alors que c'était tout simplement un geste antiféministe. D'ailleurs, c'était marqué dans sa lettre de suicide, dans son manifeste, si tu veux, antiféministe. Il avait une liste aussi avec le nom de femme, puis il y a très peu de journalistes qui en ont parlé à l'époque. Là, je pense que l'une des premières, ça a été Francine Pelletier. Puis, je sais pas, moi, je trouvais que cette année, ça revêtait peut-être une signification particulière à Polytechnique à cause des 18 féminicides qu'on a connus aussi.
Oui, c'est une année noire en ce qui concerne, évidemment, les féminicides. C'est dans ce contexte-là que ça se produit également cette année. Il y a un devoir de mémoire, mais il y a un devoir où on le voit, il y a toujours, pour les femmes... un sérieux problème de sécurité.
Bien, c'est ça. Tu dis un devoir de mémoire. Le fait qu'on ait eu autant de féminicides depuis des années, que cette année, on en soit rendu à 18, c'est dire que l'antiféminisme, il est encore là. Tu sais, quand il y a eu cet attentat au camion Bélier à Toronto, c'était aussi un geste antiféministe. Il y a encore des hommes aujourd'hui, surtout en ligne, qui parlent contre les féministes, qui menacent les femmes, qui ont un discours très violent. Tu sais, je faisais référence au camion Bélier. Je pense que c'est la première fois où on a entendu peut-être dans les médias de masse l'appellation incel, c'est-à-dire des hommes qui en veulent aux femmes de ne pas vouloir coucher avec eux et qui commettent et qui prônent la violence envers les femmes à cause de tout ça. Donc, il y a encore tout un discours de violence envers les femmes, une misogynie qui est là et qui amène des hommes à commettre des meurtres de femmes. Donc, voilà, tu sais, c'est une journée qui est particulière. C'est important de ne pas les oublier. Puis on est dans toute une discussion aussi sur le contrôle des armes à feu au Canada. Là. On va savoir comment Justin Trudeau va être reçu sur les lieux des commémorations. Là. Il y avait des victimes qui, par le passé, n'étaient pas chaudes à l'idée de le voir là. Donc, c'est définitivement une journée très, très émotive.
Oui, on nous dit effectivement, ça a été confirmé qu'il serait là.
Oui.
Merci, Geneviève.
Geneviève Peterson.
Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
La rencontre Lefebvre-Leclerc.
Elsie, Marc-André, bon lundi, slotcheux, venteux, tempêteux.
Ouais, bon. Lundi.
Non, mais bon, trêve de plaisanterie, là, je pense que, en tout cas, de mon bord, je m'attendais à une plus grosse tempête. J'ai quand même pelleté ce matin, la neige était très, très lourde. Mais bon, on s'est tous rendus à bon port et on est là aujourd'hui. Elsie, on commence par parler du congrès d'orientation du PQ. Tu parles même d'harmonie.
D'harmonie, ben oui, tu sais, donc c'est sûr que les nouvelles sont pas toujours bonnes au Parti québécois dans les derniers temps, mais bon, une bonne nouvelle pour le congrès du Parti québécois, tu sais, on le sait, là, par le passé, le Parti québécois nous avait habitués à des chicanes par moment et tout ça, et malgré la situation, ben, tu sais, le Parti québécois est à égalité là, avec Québec solidaire et grosso modo avec le Parti libéral dans l'opposition, ben, les péquistes se sont entendus. Je pense que le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon reste solide malgré tout. Donc, il y a un congrès pour eux qui visait, ben, c'était la première fois que Paul Saint-Pierre Plamondon rencontrait des militants depuis son élection, donc en personne. Et donc, lui a fait son discours. Et puis, ce qu'on voit, ben, c'est ça, c'est que le Parti québécois se recentre sur la question de l'indépendance du Québec. Donc, ça reste parce que dans certaines années au Parti québécois, on avait mis cette question-là, non pas de côté, mais disons que c'est pas l'enjeu qu'on parlait le plus. Donc, l'indépendance du Québec demeure au cœur du programme. Donc, c'est comme ça qu'on va vouloir se démarquer des autres. Puis, un programme plus pragmatique, donc plus pragmatique en environnement, ramener les CPE. Il y a Pauline Marois qui est venue faire un discours pour parler justement des CPE, de la contribution, de l'importance que ça a eu au Québec, parce que rappelons-nous que ça a quand même augmenté de beaucoup le taux d'emploi des femmes au Québec. Donc, des candidats vedettes aussi, malgré tout, le Parti québécois a réussi à attirer là, Pierre Nantel dans Marie-Victorin, notre ancien collègue ici à Cube, Stéphane Enfield et Alex Deschênes aux Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie. Donc, bref, qu'est-ce que ça va donner dans un an? Bon, je pense que la CAQ cartonne et donc la CAQ risque de ratisser très large. Qu'est-ce qui va rester pour le Parti québécois? C'est sûr que c'est pas évident. Mais bref, dans les circonstances, je pense qu'ils ont tenu un bon congrès.
Ah, mais ils ont changé de logo. Tout est nouveau. C'est le début d'un temps nouveau.
C'est vrai.
Marc-André?
Ouais, mais c'est ça. Mais le problème, des fois, c'est que quand la seule nouvelle qui sort de ton congrès d'orientation, quand c'est de parler du nouveau logo, c'est là que tu vois c'est un franc succès ou pas. L'avantage, je pense, pour le Parti québécois, là, si avantage il y a, c'est qu'au moins, tu sais, ils ont une cause, ils ont un idéal, ils ont un projet, et moi, je pense qu'ils font bien de ne pas le cacher, de ne pas faire semblant. Bon, là, est-ce qu'il faut vraiment aller en détail, tu sais, ça c'est quoi la monnaie, y aurait-il une armée québécoise, puis tout ça, peut-être pas, les gens sont pas là, mais au moins, ils s'assument. Je pense que le grand test, au-delà d'une réussite certaine du fin de semaine pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que je pense que c'est vraiment Marie-Victorin qui va vraiment être le grand test pour lui, qui va peut-être dessiner un peu sa destinée, à savoir, bon, est-ce que le Parti québécois va disparaître, je ne penserais pas, mais est-ce qu'ils vont se ramasser à 2-3 sièges ou être capables de survivre avec une dizaine de sièges, tu sais. Parce qu'ils sont allés chercher une bonne candidature, M. Nantel, Pierre Nantel. Ça leur a permis de prendre quelqu'un du coin de la place qui est connu, qui est élu. Et maintenant, c'est au-delà du congrès. C'est là, il faut qu'ils mettent leurs actions, leurs énergies. Parce que s'ils remportent, ben, ça va être une surprise un peu, parce que tout le monde s'attend à peu près que ce soit la CAQ. Mais sinon, s'ils remportent pas, puis c'est vraiment une défaite cuisante, là, c'est là peut-être que les gens vont remettre en question la chefferie et la position de M. Saint-Pierre Plamondon comme chef et peut-être de voir. Moi, je sais pas vraiment pourquoi j'en parle, mais tu sais, je verrais très bien là, Yves-François Blanchet prendre là, arriver en sauveur comme Gilles Duceppe l'avait fait là.
Mais il l'a pas exclu, le chef du bloc. Il y a des rumeurs quand même qui sont assez persistantes.
Non, il l'exclut pas. Il n'en parle pas ouvertement. Il a dit qu'il allait être serré les coudes, qu'il allait être avec lui pour l'élection de 2022. Mais moi, je suis sûr que si on le ferait, c'est sûr que M. Blanchet, là, il est peut-être pas un martyr, il peut-être pas, il sait que 2022 va être difficile, mais reprendre la suite des choses, d'arriver à la fin puis sauver les meubles, comme il a fait un peu avec le Bloc québécois, c'est peut-être une position où M. Blanchet est très confortable.
Oui, bon, j'ai quand même des doutes. Et si t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est réaliste de penser que François Blanchet pourrait faire un saut au Parti québécois?
Ben, je pense que c'est ça peut être une option. Est-ce que c'est vraiment là? Tu sais, François Blanchet a une belle position à Ottawa, donc pourquoi s'en venir au Parti québécois? Mais c'est certain que la prochaine élection, là, tu sais, on va dire les vraies affaires, là, et pour QS, et pour le PQ, et pour le PLQ, là, ça va être à peu près rien, tu sais. Ouais. Donc, Marie-Victorin, oui, c'est un test pour le Parti québécois, mais en même temps, tu sais, Pierre Dantel a même dit « Je vais être présent à la prochaine élection, là, tu sais, à l'élection générale si je venais à perdre. » Donc, tu sais, c'est dans les cartons aussi, c'est difficile. La CAQ est tellement forte. Bref, la prochaine élection, c'est de savoir est-ce que les candidats vedettes que le PQ va recruter, ils vont être capables de les garder pour, tu sais, faire le prochain mandat, là, dans l'opposition, entre guillemets. L'opposition, là, t'es même pas député, là, t'es juste un militant. Ça va être difficile. Mais bref, c'est l'autre élection qu'il faut miser. Est-ce qu'à ce moment-là, Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir à se maintenir? Moi, je pense que tant que longtemps qu'il y aura pas François Blanchet ou quelqu'un de fort, je pense qu'il va rester là. Les péquistes sont conscients, là, qu'on est dans une traversée du désert.
Mais tu sais, je serais tellement curieux de voir un sondage avec M. Blanchet comme chef, là. Tu sais, je dis pas que ce serait à 60 % mais il serait pas à 13 % tu sais. Puis Saint-Pierre Plamondon, il est à 3 % qu'on parle de le meilleur ou la meilleure première ministre, premier ministre, il est à 3 % Son parti tire à 13 et lui, il est à 3 % Ça veut dire que, mais tu sais, de voir quelqu'un comme Yves-François Blanchet qui va s'ennuyer un jour ou l'autre à Ottawa, là, tu sais, parce qu'il pensait faire 60-70 députés suite à la question de la modératrice en anglais. Et là, finalement, la carte au Québec, on le sait, là, n'a pas bougé puis il reste à 32 députés, tu sais. Fait pourquoi pas un bon défi là, d'aller relever les troupes à l'Assemblée nationale?
Bon, moi, je pense pas que ça va arriver quand même. Je penserais pas.
Ouais. Mais tu sais, Marc-André touche un bon point sur le fait qu'il le fait une fois déjà. Parce que le Bloc québécois aussi, c'était mort là, quand François Blanchet est arrivé. Puis pouf, il a réussi, pas juste lui, mais dans une conjoncture, à ramener ça. Moi, je pense que le Parti québécois, l'enjeu, c'est ça, c'est de pas disparaître. T'sais. Donc, si ça leur prend au moins un, deux, trois députés à la prochaine élection. Puis ensuite de ça, on s'enligne sur l'autre élection. Puis là, ça va être possible de faire des gains. Parce que la CAQ ne restera pas non plus là, dans les sommets comme ça pour l'éternité. Mais ça va prendre un 3-4 ans.
Non, mais la CAQ agite beaucoup le flambeau nationaliste. Donc, ça fonctionne avec les gens qui avaient tendance peut-être à voter pour le Parti québécois.
C'est sûr.
Marc-André et Elsie, on parle du 32e anniversaire de la tuerie à Polytechnique. Et tu sais, c'est aujourd'hui... À chaque 6 décembre, là, on peut pas en parler. On se demande aussi comment en parler de façon différente. Là, il y a beaucoup de messages sur les médias sociaux. Moi, ce matin, je me disais, est-ce que j'écris quelque chose sur Polytechnique? Est-ce que ça a l'air, tu sais, de vouloir, entre guillemets, faire de la récupération? T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si tu mets rien, tu es une mauvaise féministe. Mais n'empêche, c'est une tragédie qui... Parce que je posais la question à ma fille tantôt par texto, j'étais curieuse. Je lui ai écrit à l'école, j'ai dit « Est-ce que tu sais c'est quoi la tuerie de Polytechnique? » Elle me dit non. Puis elle a 14 ans. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé.
Non, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Puis en plus que ça s'inscrit dans un contexte où tout ce qui entoure, c'est le contrôle, le trafic des armes à feu, les féminicides qu'on a vus, les tueries qu'on a vues, tout ce qui se passe au niveau de la sécurité à Montréal, à Toronto, si on fait un peu plus large, on sort un petit peu du Québec. Donc, ce n'est pas oublié, tu sais, puis c'est comme des fois, c'est comme si tout le temps, c'est toujours à recommencer. Et ça s'inscrit encore aussi dans des annonces hier de la ministre Guilbeault qui annonçait un plan là, de 52 millions, justement, pour essayer d'encadrer, tu sais, la lutte là aux armes à feu. Tu sais, c'est pour surtout pour de la prévention, différents programmes. Et on voit que tout un chacun essaie de trouver une recette miracle. Tu sais, mais sauf que ce qui nous manque depuis un mois, depuis la fin de la campagne municipale où on a vu les tragédies à Montréal, par exemple, c'est y a pas de plan. On voit pas que les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble. T'sais, c'est comme si tout un chacun sait que c'est important, mais c'est comme il n'y a pas de recette miracle. Mais on sent là, qu'il n'y a pas personne quand même qui essaie de faire l'essai de travailler ensemble là-dessus. Là, ça me fait un peu penser à un autre ordre d'idée, un peu la pénurie de la main-d'œuvre. Tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est problématique, mais quand on regarde ce que nos politiciens, nos décideurs font, ben, personne ne travaille vraiment dans le même sens. Fait que là, c'est un peu la même chose avec la lutte aux armes à feu. Tout le monde sait que c'est important. Des journées comme aujourd'hui, où on se rappelle ces 14 victimes-là de la tuerie de Polytechnique, ça nous rappelle encore plus, OK, les effets de ça, puis comment il faut agir. Mais je pense qu'on va être obligé de sentir de nos décideurs prochainement qu'il y a vraiment des actions concrètes et au-delà des mots. Et ça, c'est M. Trudeau est excellent là-dedans, les mots, mais les actions. Et ça, c'est un peu triste que même après 32 ans plus tard, même s'il y a des événements qui sont arrivés dans notre cours il y a très dernièrement, mm-hmm. ben, on sent pas que cette volonté-là de changement est très présente.
Mais c'est fou quand même. Hein. Je regardais tantôt une couple d'affaires sur Polytechnique. C'est seulement en 2019 que la Ville de Montréal a reconnu le caractère antiféministe de l'événement.
C'est surprenant, effectivement. Puis c'est un événement, comme tu disais au départ, là, qu'on doit se souvenir. Puis je pense effectivement, peut-être notre génération, on a ce devoir-là de rappeler le souvenir parce que, tu sais, effectivement, c'était l'émancipation des femmes ultimement qui était, tu sais, qu'on voulait
qui était visée.
Anéantir. Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, je regardais en fin de semaine, vous avez sûrement vu là, le congressman américain là, tu sais, avec ses armes à feu autour du sapin avec sa famille là, chacun ont comme leur mitraillette dans les mains, puis là tu te dis mais mon Dieu, tu sais, ça c'est des élus aux États-Unis, puis on sait à quel point le pouvoir des lobbies des armes à feu aux États-Unis est fort. Là, je veux pas faire un parallèle direct, mais tu sais, ce qu'on voit aussi sur les visées anti-avortement aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, tu sais, c'est rendu que c'est présent et ça s'est concrétisé. Donc, des groupes extrémistes un peu qui prônent des politiques comme celle-là, donc sur les armes à feu, sur l'avortement, puis il y a pas si longtemps, on disait, ben non, ça se peut pas, puis non, puis au Canada, on a ces mêmes groupes-là, et à la fois pour l'avortement, puis à la fois sur les armes à feu. Puis moi, je pense qu'il faut vraiment se tenir debout et plus que jamais insister pour qu'on puisse avoir des lois fortes. Puis Marc-André a raison de dire que Justin Trudeau a fait des beaux discours là-dessus, puis après ça, a envoyé le singe dans les municipalités puis dans les provinces pour dire, ben faites les règlements que vous voulez, mais il a pas pris ses responsabilités. Et là, puis j'écoutais là, les représentants de Poly se souvient, puis là, ils souhaitent des actions concrètes, puis ne pas attendre trop tard parce qu'on est quand même dans un gouvernement minoritaire. Donc moi, je pense qu'il faut mettre la pression sur Justin Trudeau qui agisse concrètement parce que c'est vraiment un champ de juridiction fédérale ultimement pour le contrôle des armes à feu.
Marc-André?
Oui, puis là, il y a un autre phénomène hein, qu'on se rend compte. On pouvait lire ça dans la presse, c'est qu'il y a des gens, entre autres, et là, les exemples venaient de Montréal, où des gens, des citoyens normaux, là, pas des criminels, pas des gangs de rue qui commencent à s'armer là, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité là. Et là aussi, ça c'est un phénomène, parce qu'à un moment donné, le simple citoyen qui a peur pour sa sécurité, s'il voit pas que les gens au haut de lui, les élus prennent des actions pour arrêter ça, ben là c'est les gens qui vont se protéger eux-mêmes.
Attends, mais je l'ai lu cet article-là, Marc-André, puis j'ai quand même des bémols, honnêtement. Premièrement, c'est pas un très, très grand échantillonnage. Deuxièmement, il y a une personne là-dedans qui se pourrait aller à la chasse. Tu sais, c'est comme, faut pas non plus capoter, là. Je le lisais, puis j'étais comme, voyons, on est quand même pas...
Non, Geneviève, t'as raison, tu vois mon ton, là.
Mais faut ramener ça, parce que je voyais le titre un matin, puis je suis sûre qu'il y a bien des gens qui ont vu le titre, des Montréalais s'arment, puis qui ont pas lu le texte, puis, tu sais, pour vrai, il faut se calmer, là.
Mais si, non, effectivement, tu vois, là, je suis pas trop énervé ce matin, là, mais je veux dire qu'il y a quand même des gens, ça m'a quand même, en lisant cet article-là, m'a poussé à la réflexion, il y a quand même des gens que...
Non, oui, qui se sentent assez apeurés qu'ils vont aller là.
C'est ça, et parce qu'ils voient que leurs élus ne sont pas en action ou dans une recherche de résultats concrets. Et ça, faut faire attention à ça, parce qu'il faut pas donner non plus le Far West, là, puis se faire... notre propre justice.
Non, puis qu'on voit aussi que quand on a des armes à feu dans une maison, il y a plus de chances pour qu'il y ait des incidents par arme à feu. Tu sais, je veux dire, parfois, ça peut se revirer contre les personnes aussi. Là. Donc, évidemment, c'est quand même très, très préoccupant qu'il y ait des citoyens qui aient assez peur et qui pensent à s'acheter des armes. Terminons sur la question du français. Il nous reste un petit deux minutes. Là, les PDG qui peut-être tirent des leçons de ce qui s'est passé avec le PDG Rousseau et qui se mettent au cours de français, elle-ci.
Ben oui, on a hâte de voir ça. Donc, ben regarde, on peut juste se féliciter de ça. Si M. Rousseau aura eu
il est servi d'exemple. Oui.
Ben, c'est ça. Donc, thank you, Mr. Rousseau, for that. Puis, ben, j'ai hâte de voir les résultats parce que, tu sais, c'est une chose de dire, ah, tu sais, je regardais justement la vice-présidente hockey du Canada. Ah oui, je vais essayer d'apprendre. Mais, tu sais, est-ce que la volonté sera réelle? La gouverneure générale du Canada te dit la même chose. Ah, je vais essayer d'apprendre. Tu sais, le français, ça s'apprend. Je pense qu'avec beaucoup de volonté, c'est possible de l'apprendre.
Mais Marc-André, tu le sais, toi, t'en as été témoin avec des chefs conservateurs, des gens très anglophones là, qui l'ont appris, pareil.
Oui. Bien, qui l'ont appris, ça se fait. C'est ça le show, ça se fait, mais ça se fait, là, mais
faut vouloir.
C'est pas une heure par mois, là. C'est moi, là, avec Andrew Scheer, c'était 2 à 3 fois par semaine, un avant-midi, là. Tu sais, puis on a vu des progrès, puis même là, après 1 an et demi, 2 ans, il y avait des... C'était pas encore comme moi je l'aurais souhaité, par exemple. Il y avait encore des défis quand t'es rendu dans des débats. Fait que, tu sais, c'est ces gens-là qui m'ont dit on va l'apprendre, là. Moi, je veux voir leur horaire.
Attends, moi, je veux voir, tu veux voir leur horaire, mais moi, je veux voir leur oral. On va leur faire faire un exposé oral à la fin du cours, voir où ils sont rendus. Merci à vous deux. On se retrouve demain.
Bye-bye.
Au revoir.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Et on retrouve Sylvain Dancause, blogueur au Journal de Montréal et enseignant de maths et de sciences au secondaire. Salut Sylvain.
Bonjour Geneviève.
Bon, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas posé des questions. Aujourd'hui, vaste programme. Est-ce que c'est encore pertinent, les examens, les évaluations à l'école? À quoi ça sert, moi, à part stresser ma fille qui est au secondaire? Je vois pas vraiment l'utilité. Mais bon, moi, j'aimais ça étudier pour les examens, mais j'étais vraiment nerd au secondaire. C'était terrible. Je prenais de la drogue, mais j'étais nerd. Ils m'entendent pas, là, tes étudiants, là, hein? OK.
Non, nous autres, on est en congé aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. OK.
Tempête.
Oui, bon, c'est la seule commission scolaire à Montréal qui nous a pas donné congé, mais c'est parce qu'on a tellement ri d'eux l'année passée quand ils nous ont tous coupé ça pour 1 cm que cette année, ils prennent pas de chance.
Oui, ben là, moi, c'est ça. Je passe une journée avec les enfants puis ma blonde à la maison. C'est le beau congé. Ça nous rappelle nos souvenirs quand on était jeunes. Là, pis
les journées tempêtes.
Il y avait une grosse tempête puis on n'allait pas à l'école puis on était contents. Là. Moi, les trois chez nous étaient bien heureux ce matin. Là.
Moi, je jouais à Zelda. OK. Examen. Toi, est-ce que tu es un prof qui est, si on veut, un ayatollah de l'examen? Là, tu sais, nous, on séparait les profs en deux catégories, là, ceux qui étaient tough à l'examen puis ceux avec qui c'était pas mal une passe gratuite. Là.
Ouais, ben je pense que quand t'évalues, faut que tu sois entre les deux dans le
okay.
sens où faut que tu sois cohérent dans ce que tu vas demander, faut que tu sois rigoureux, tu sais, faut pas tomber dans les extrêmes là, tu sais, l'élitisme à outrance ou le nivellement par le bas, t'sais, on dirait toujours que le discours est polarisé là.
C'est vrai.
Mais bon, quand t'évalues, on est souvent dans la fonction de certifier des acquis, je te dirais. C'est souvent ça qu'on entend, là. Est-ce que je vais passer mon cours? Est-ce que je vais faire des cours d'été? Est-ce que je vais obtenir mon DES? Est-ce que mes notes sont suffisantes pour rentrer dans un programme contingenté? Puis on oublie souvent la fonction la plus importante, tu sais, de l'évaluation, c'est soutenir les apprentissages. Fait que le fait de recevoir une note ou le fait de faire un examen, bon, on pourrait parler d'examen sommatif ou formatif, là, mais je rentrerai pas dans ces détails-là, mais quand tu dis à l'élève, exemple, ben, t'as eu 64%, ben, faut que t'aies au-delà de ça, faut que tu donnes une rétroaction efficace, une rétroaction de qualité à ton élève pour qu'il apprenne quelque chose, parce que le but d'évaluer, le premier but, je te dirais, c'est de soutenir les apprentissages.
OK, fait qu'une note sans commentaire, à part si on a 98%, puis tu sais, ça ne sert pas à grand-chose.
Exact. Ben, à moins que ce soit un examen de fin d'année puis que tu ne revois pas tes élèves, exemple, ouais. un examen de juin, on va dire les bons vieux examens
là,
de juin.
Tu t'en débarrasses.
je veux dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Tu n'es plus en apprentissage, là, ton année est finie. On pose un jugement à ce moment-là. Mais en cours d'année, non, tu sais, les élèves, souvent, se définissent beaucoup par la note, là, en haut de 60 ou en bas de 60. Fait que si j'ai 55, je suis pas, j'ai rien compris.
Mais c'est drôle. Tu dis juste deux catégories parce que peut-être que ça a changé là, depuis mon temps, Sylvain. 80, c'est une vieille chose maintenant, mais moi, c'était ceux qui ont entre 80 et 90. T'sais, on répartissait quand même par dizaines là, le club auquel tu appartenais. Moi, si j'avais en bas de 80, là, je me sentais mal. J'étais pas bien.
Ouais, t'as raison. Parce que moi, dans ma tête, j'avais en arrière pensé des élèves qui ont un peu de difficulté,
mais oui,
qui vont avoisiner les 50, 60, 70. Mais t'as raison, ce clivage-là se fait aussi pour les élèves qui sont les plus forts, dans le sens où on va beaucoup se comparer. Puis, moi, j'ai eu 92, la moyenne, c'est 85. Ah, j'ai eu 80, la moyenne, c'est 85. Ouais. Là, je suis en bas de la moyenne de 5%, mon Dieu. Ça, on voit beaucoup ça aussi dans les groupes. Je vais te donner un exemple. Les groupes de programme éducation internationale, des groupes où les élèves ont
été... tellement ça, là, ils sont drillés, là, puis c'est la grosse compétition. Être au programme international.
Ouais, ben c'est souvent des élèves forts qui sont réunis ensemble.
C'est ça.
Puis là, ben, avec les moyennes de groupe, tu as souvent tendance à te comparer. Puis c'est sûr que si tu arrives dans un groupe de PEI, puis la moyenne à l'examen de mathématiques, c'est 82%, puis que toi, tu as eu 78, t'as tendance à avoir peut-être une moins bonne estime
c'est
de toi-même, puis dire je suis ordinaire comparativement aux autres, moi j'ai de la misère. Mais là, tu sais, il faut relativiser tout ça, puis t'as eu 78. Des fois, moi, j'ai les deux, j'ai des élèves du régulier puis des élèves du PEI, tu sais, depuis plusieurs années. Puis des fois, je disais à certains élèves de PEI qui ont eu 75 puis qui sont quasiment tristes, puis c'est mon Dieu, c'est...
Oui, oui, là, tu dis calme-toi, là, ça va bien aller plus tard ta vie. Hey, Sylvain, OK, là, j'ai une question pour toi, là, t'ouvres grande les portes du mystère enseignant, là, tu sais, quand on était plus jeune, on n'avait pas accès à ça. Tu sais, les profs avec qui c'est tout le temps trop dur, là, tu sais, c'est les profs qui sont contents, là, de dire, là, moi, dans ma classe, la moyenne, c'est 65, puis là, c'est impossible de passer leur cours, puis si t'as 72 dans ce cours-là, là, t'es un génie, là, c'est quoi l'affaire avec ce monde-là?
J'ai tendance à croire, j'ai connu ça moi aussi comme élève, je te dirais.
C'est décourageant.
Beaucoup au cégep, moins au secondaire, mais beaucoup au cégep, là, des profs qui étaient fiers de te dire là, qu'ils allaient élaguer, là, puis mon Dieu, tu sais, c'est eux autres qui étaient là pour faire régner la loi et l'ordre là, dans le programme de sciences naturelles.
Complexe de Napoléon, peut-être.
Ouais, exact. Mais je te dirais que personnellement, au secondaire, on voit plus beaucoup ce genre de pratique-là. Je pense que les mentalités ont changé.
Mm-hmm.
Puis quand tu fais un examen, le but, c'est d'être cohérent, c'est d'être rigoureux puis d'être transparent.
Fais-tu des pièges, toi?
Pardon?
Est-ce que tu fais des questions pièges?
Ben, de temps en temps, mais c'est sûr que, tu sais, le faut toujours que tu poses la question, là, pourquoi tu évalues? Qu'est-ce que tu veux mesurer?
Okay.
Le piège, souvent, bon, si tu veux faire apprendre aux élèves comment contourner un piège dans un examen, ça peut être intéressant. Mais si tu évalues, exemple, les fractions, puis tu mets un piège, ben là, tu n'évalues plus les fractions. Tu évalues le piège que tu as tendu aux élèves, puis ils sont plus capables de le voir.
Mais nous, on avait des profs qui vérifiaient notre écoute. C'était des petites questions bonus à la fin. Si tu avais écouté, tu avais des points bonis. Ça, c'est une chose. Moi, je trouvais ça bien. Mais si on revient à la pertinence des examens, moi, j'ai envie qu'on se parle de comparaison, là, parce que moi, j'avais des profs qui donnaient les notes à voix haute, puis qui nommaient les élèves qui avaient des mauvais résultats.
Ouais, j'ai connu il y a longtemps de cela des collègues qui faisaient ça.
Ouais.
Mais là, on parle d'il y a une vingtaine d'années au moins. C'est des pratiques, moi, que j'ai plus vues depuis ce temps-là. Donc,
ça a l'air le fun, l'école s'est rendue.
Non, mais c'est parce que je suis pas sûr que ça passerait en 2020, ce genre de façon de faire là.
Ben, il y a encore des profs d'éduc qui pèsent leurs élèves, juste à dire.
Ouais, non, ça j'avais vu ça passer, là, ça. On rentre dans un autre. Reste dans le même débat.
C'est la même affaire, c'est vintage.
Mais c'est sûr que de classer les élèves comme ça en ordre décroissant ou croissant, ça n'a pas de sens dans un milieu d'éducation, dans le sens où tu es là pour travailler sur la persévérance, sur la motivation, sur l'estime de soi. Là, si tu fais ce genre de pratique-là, me semble pas. En tout cas, pour moi, ça rentre en contradiction avec ta mission comme enseignant et la mission de l'école.
Ben, t'as bien raison. Puis bon, faudrait que tu me reparles à une autre occasion, Sylvain, quand il va nous rester plus de temps, peut-être, parce qu'on s'était parlé quand t'étais avec tes élèves des façons d'étudier, tu sais, pour être proactif, pour avoir des bons résultats. Est-ce que c'était pertinent d'apprendre par cœur, de comprendre la matière? Puis on sait que les élèves, pendant la COVID, ont été beaucoup laissés à eux-mêmes. Il y a des élèves qui ont développé des méthodes d'études absolument fantastiques. Là, moi, quand je regarde, par exemple, les post-it de ma fille, ses crayons soulignants, T'sais, honnêtement, Sylvain, c'est quasiment de l'art contemporain.
Okay? Ah, c'est bien, ça.
Ben, c'est bien, mais en même temps, attends, moi, je pense que ça cache aussi une très grande anxiété. Je pense que les élèves qui sont très, très organisés, ce sont souvent des élèves qui sont excessivement anxieux puis qu'ils ont, comme ce que tu viens de dire, là, un peu cette idée de se comparer, de l'anxiété de performance. On en reparlera dans une prochaine chronique parce qu'on n'était pas revenu là-dessus. Merci, Sylvain.
Ça va me faire plaisir.
Bye-bye.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
Hello.
Léa Strisky.
Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
Mathieu Cyr.
Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
La rencontre.
Il y a de l'éducation à faire.
Je vais avouer que je suis pour la démarche.
La rencontre Strisky-Cyr.
Un cheval. Un cheval. And that's a horse. Un cheval.
Bonjour. Hi. Bonjour. Hi. Bonjour. Léa et Mathieu.
Bonjour, Geneviève.
On se parle évidemment des cours de français pour des PDG unilingues. C'est comme si l'histoire de M. Rousseau avait fait des petits, Léa.
Oui, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Des gens très, très haut placés dans notre hiérarchie d'entreprise, des gens qui gagnent énormément d'argent, des gens qui sont unilingues anglophones et qui ont cette espèce de monopole et cette manière d'être cachés tout en haut de leur tour et de ne pas devoir apprendre le français.
14 ans, hein, M. Rousseau, à Montréal, sans avoir besoin de parler français, je le cite.
Ben oui, puis tu sais, il y a cette espèce de balle entre les francophones et les anglophones depuis très longtemps. Mmh. Je veux dire, là, maintenant, ça fait des décennies que le français est vraiment la langue officielle de Montréal, que dans nos rues, c'est pas affiché partout en anglais comme ça l'était dans le temps. Mais tu sais, il reste des petits tours de passe-passe, puis on dirait que la langue des affaires, ça reste l'anglais. Ouais. Puis, ben c'est ça, tu peux être à la tête de des très grosses entreprises nationales ou même des entreprises québécoises. Et pas parler un traître mot de français. Puis là, j'ai l'impression que ce malaise-là ne pourra plus perdurer. En tout cas, le cas Rousseau, le patron d'Air Canada...
Ça école, c'est le cas de le dire.
Il s'est fait prendre les culottes baissées. Puis c'est vrai que comme journaliste, tu peux arriver avec un micro dans à peu près n'importe quel scrum de presse pour faire... poser une question en français à un chef d'entreprise en anglais, puis il tombe toujours dans ce piège-là.
C'est Pierre-Olivier Zappa qui avait posé une question en français à M. Rousseau qui savait vraiment pas quoi répondre. Puis on peut se poser la question pourquoi son équipe l'a ainsi envoyé dans la gueule du loup alors qu'il y a des études partout qui parlent du recul du français, alors qu'il y a plein de médias qui l'en parlent. Puis quand même, il avait poussé l'insulte à l'injure, M. Rousseau, en disant que son agenda lui permettait pas de prendre des cours. Finalement, il a fait de la place hein, au bout d'un certain temps. C'est son honoraire s'est libéré. C'est comme la magie de son adjointe administrative. C'est peut-être un adjoint aussi, hein, je dis ça comme ça.
Mais oui, puis c'est en faisant cette pression-là que quelque part les cultures changent, tu sais, parce que là, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont en train de suivre le bal, tout simplement parce que j'imagine qu'ils veulent pas être salis comme M. Rousseau l'a été. Puis que maintenant, c'est considéré comme quelque chose de grave, puis qu'ils passent tout simplement plus. Il faut que tu t'intéresses à la culture ambiante du Québec, et donc ça passe par le français, tu sais. Donc il y a la patronne de la banque Laurentienne qui parle pas français, il y a le patron de couche qui parle pas français, SNC-Lavalin, non plus pas un
c'est pas lui, le PDG d'SNC-Lavalin qui a justement annulé son discours devant je sais plus trop qui, là, parce qu'il avait peur justement de subir le même sort que M. Rousseau.
Ben exactement, donc ça fait des antécédents ces moments-là, et donc ben ils veulent pas subir ça, donc tout d'un coup, ils font il y a une petite case horaire qui est réservée à apprendre tes couleurs en français puis tes animaux. Puis sincèrement, dans une vie super occupée d'un chef d'entreprise là qui touche
c'est
plus
presque
à terre,
de la méditation,
ben,
c'est bien.
Fun. Exactement, ça te remet dans la vraie vie. Donc moi je suis sûre que cette heure-là par semaine, ou je sais pas exactement c'est combien de temps, mais je suis sûre que c'est tout à fait louable. Donc,
ben, tantôt je parlais avec Marc-André Leclerc, qui a coaché Andrew Scheer, entre autres, dans son apprentissage du français, puis il me disait justement, Léa, c'est pas une heure par semaine que ça prend, là. Lui, il faisait 2-3 avant-midi, là. Faut que tu fasses l'immersion, faut que tu t'intéresses. Oui. Donc, va falloir savoir aussi si c'est l'heure de la bonne conscience ou si c'est réellement des cours de français. Mathieu?
Oui.
T'es-tu encore? T'es
ben
là?
Moi, oui. Comme 95% des humoristes, j'attends le gag de Sugar Sammy là-dessus.
Oui, hein.
Je pense que ça devrait être très bientôt qu'on va voir ça.
Mais c'est pas déjà fait, là, sur... Attends, là, je regarde ça. Non, il n'est pas encore fait sa sortie.
Ça va être un peu de Québec bashing un peu partout à l'international, surtout du côté des Ontariens, puis tu sais, comme quoi c'est ridicule de faire apprendre quelqu'un le français, parce que de toute façon, le cash, ça n'a pas de langue. Fait que je m'attends.
Mais non, attends, le cash, ça a une langue, c'est l'anglais, selon eux. c'est plutôt ça, là.
C'est de plus en plus le chinois aussi. Ça a la langue des acheteurs. Puis je pense que le Québec, on est vraiment. On se tient debout, justement, pour dire que on respecte plus notre culture que notre portefeuille sur ce côté-là. Fait que bravo pour cette initiative-là. Je trouve ça très cool.
Hey, tu voulais qu'on fasse un retour, là. On a parlé ensemble la semaine dernière de cette joueuse de tennis chinoise qui avait mystérieusement disparu. Puis on se posait la question, parce que l'Association de tennis féminin a dit, ben nous, on n'ira pas en Chine. Et là, d'autres fédérations sportives qui se posaient la question. On sait qu'il y a les Jeux olympiques aussi qui doivent avoir lieu à Pékin. Là, tantôt, Washington qui a confirmé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. Mathieu, c'est quoi un boycott diplomatique?
Ben, en gros, c'est les représentants de la diplomatie américaine qui ne seront pas là. Fait que les joueurs, les joueuses de plusieurs sports, les athlètes peuvent y aller. En fait, ils vont y aller.
Parce qu'il ne faut pas les pénaliser, là, ils s'entraînent. Oui, c'est ça.
Et sinon, c'est ça. C'est, en gros, c'est le diplomate américain qui ne sera pas là, le président Joe Biden qui ne va pas faire son tour, etc. Fait que c'est un petit peu ça qui va se passer au niveau du boycott diplomatique. Je pense pas que ça va changer grand-chose, personnellement.
Est-ce que tu me parles dans un tunnel? T'es-tu dans un tunnel en ce moment? Tu sonnes comme si tu me parlais... Tu sais, quand on était jeunes puis on se faisait un téléphone avec une canisse là, pour parler avec le voisin, là, c'est un peu comme ça que tu sonnes en ce moment. Donc, je t'invite à t'approcher d'une fenêtre ou d'ouvrir ta puce 5G, là, je sais pas trop.
Ah, ben ça doit être parce que je suis sur le 5G de Huawei.
Oui, ils t'espionnent. Attention, ils vont te boycotter. Mais ceci dit, là, on plaisante, mais un boycott diplomatique, c'est un geste symbolique qui est fort, mais c'est quand même tiède comme mesure, parce que concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Les relations sont déjà tellement tendues avec la Chine.
Bien, je trouve que ça met le Canada dans un étau. On n'a pas le choix de suivre les Américains de ce côté-là, mais nos relations avec la Chine, justement, comme tu le dis, sont tellement tendues. Puis, d'un autre côté, il y a tellement d'abus faits de la part du gouvernement chinois.
Mais au Canada, Mathieu, notre position est toujours un peu tiède. Là. Rappelle-toi, dans le cas du travail des Ouïghours, là, il y a une motion là, que les partis de l'opposition ont voulu passer au fédéral. Justin Trudeau, qui n'était même pas là ce jour-là, qui n'a pas voulu prendre part à tout ça. Les deux Michaels aussi, ça a été géré de façon assez mollassonne par Justin Trudeau. Là, il y a un tweet du journaliste de TVA, Olivier Ferron-Boissé, qui dit que la ministre des Sports, là, Pascal Saint-Onge, je dis que la décision du Canada n'est pas prise pour un éventuel boycottage diplomatique, là, je veux dire, des Jeux olympiques. Il faut avoir des discussions avec les alliés. Puis c'est tout le temps là-dessus qu'on revient. Là, c'est que tu peux tenir tête à la Chine si t'es plusieurs.
Oui, exactement. Bien, c'est un peu ça qui se passe justement avec la compagnie Huawei. Je niaisais avec ça tantôt, mais ils se battent pour le 5G dans plusieurs pays.
Ben, là, ils sont déjà bien installés. Ils ont des antennes ici en quantité. Là.
Oui, mais ils n'ont pas le monopole de ça. Puis en gros, c'est ça. T'as l'Angleterre qui a banni Huawei, t'as la Suède qui est contre eux aussi, t'as l'Australie qui veut y aller contre eux. Fait que tu sais, plus ça va, plus leur pratique ça passe plus à l'international. Mais encore là, c'est
la Chine. On a les moyens de leur tenir tête. On est dépendant du marché chinois pour tellement de choses.
Mais je pense qu'on est plus dépendant du marché américain. Fait que tu sais, si on est du bord de la Chine, on se met les États-Unis à dos. Si on se met du bord des États-Unis, on se met la Chine à dos. Puis moi, si tu me demandes qui choisir, ben j'ai beau ne pas aimer les Américains, j'irai du côté de la Chine.
Mais je pense que l'économie américaine aussi est dépendante de la Chine. Il y a plusieurs industries qui dépendent complètement de l'économie chinoise et du fait que c'est ou non la Chine achète leurs produits. Là, juste les producteurs de porc au Québec, si la Chine décide d'arrêter de leur acheter leur viande, ça va faire mal.
Oui, mais je me demande à quel point aussi les gens de la Chine, je me demande à quel point les Chinois en tant que tels sont pro-Chine dans la vraie vie. C'est là, ils disent parce qu'ils n'ont pas le choix, puis parce que c'est le baillon total, puis c'est la dictature là-bas, mais c'est, le citoyen chinois en tant que tel, il doit être écœuré de ce système-là, lui, avec. Là. Il voit ce qui se passe dans le monde. On a le web, c'est fini le temps du grand mur de l'URSS.
Oui, mais attends, il y a quand même de la censure qui est faite par le gouvernement chinois au niveau de l'Internet en Chine, mais moi, j'avais été vraiment complètement, j'étais à terre. On a fait une entrevue l'année passée sur des ressortissants chinois qui se sentaient suivis, espionnés par Pékin, qui avaient eu la visite de collaborateurs du régime, même à Montréal, donc la Chine qui a quand même le bras long. Mathieu, Léa, Je vous souhaite une bonne fin de tempête, de pluie ou de gadou, c'est selon où vous vous trouvez au Québec.
Absolument, à demain. Bye bye.
Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Culture et société.
Ah, oh, Anaïs Gertin-Lacroix est là. Est-ce qu'on fait de la MDMA? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai l'impression d'être dans une scène d'un film avec Xavier Dolan, là, où on danse.
J'ai l'impression d'être au stéréo dans les années 2000.
Bon. Ah, dans le temps qu'on pouvait danser, Geneviève, allô?
Ben moi, je suis encore fan de cette... J'écoute encore beaucoup Alaska and Winter pendant que je m'entraîne pour les vrais saves. Mais tu me parles de la musique techno des clubs de Berlin qui ouais. pourrait être reconnue comme patrimoine mondial. Quand même, hey, rien de moins.
Fou. Oui, absolument. Donc, c'est Rave the Planet, Geneviève, qui est un collectif, en fait, d'artistes DJ. Tu sais, pour les gens qui, je sais pas, vivez-vous depuis plusieurs années, mais je disais, tout le monde sait que Berlin et l'électro, ça va ensemble. Au même titre que tu vas pas à Nashville en espérant ne pas entendre de country. Mais tu comprends, là, c'est ça. C'est un va pas sans l'autre.
Quand on est allé à la Berlinale pour présenter la déesse des mouches à feu. Ben là, tu sais, on se promène un peu en taxi dans Berlin, puis là, on voit, il y a plusieurs... club et tout ça, puis je suis allée faire un tour dans quelques-uns, c'était quelque chose.
Je peux dire
ça comme ça. Ben, on est ailleurs parce qu'évidemment, on n'est pas chez nous, on est à Berlin, mais
oui.
C'est une scène, disons, particulière. C'est peut-être moi qui est tombée dans des drôles d'endroits, là, mais j'ai vu des choses que j'avais jamais vues avant.
Mais il y a vraiment
Achille dit oui avec sa tête.
Oui, mais il y a encore plusieurs usines, des bunkers qui ont littéralement été transformés, tu sais, en salle pour justement aller triper, aller danser. Puis tu sais, la musique électro, Geneviève, est tellement importante que même avec la pandémie pour la vaccination, on a fait 3 jours de club où les jeunes allaient danser et se faisaient vacciner en même temps. Tu sais, c'est pas toutes les villes, honnêtement, là où on encourage à aller danser toute une nuit avec en se faisant vacciner. Mais là-bas, justement, ça fait vraiment partie. Mais... de la ville, vas-y.
Moi, ce qui m'avait jeté à terre, c'est que Berlin, c'est quand même, somme toute, de l'extérieur, là, quand tu te promènes dans les rues, c'est assez tranquille. T'sais, c'est assez rangé.
Mais c'est une crachitude, Berlin.
Oui, mais dehors, non, les Berlinois sont super à leur affaire. Quand tu rentres en dedans, c'est Sodome et Gomorre, mais dehors, tout se passe bien, là, la file, tout est clean, il n'y a pas de problème. Là, tu rentres, tu fais « Hé! » Pedaille.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. Drôle, les gens. C'est comme les gens qui suivent les règlements, qui font preuve de beaucoup de retenue, mais rendu le soir venu dans les clubs, ça se fait aller.
Ben c'est exactement ça que le collectif Rave the Planet, parce que bon, ils mettent de l'avant avec la pandémie, justement, il y a plusieurs clubs qui ont fermé, puis ils disent ailleurs dans le monde, c'est normal que des clubs ferment. À Berlin, ce n'est pas normal. T'as le club Tweezer qui existe depuis 1991, qui est un, Geneviève, des clubs électro les plus connus au monde, tu comprends, qui se trouve à Berlin. Donc là, c'est ça, eux sont sortis en disant notamment aussi avec l'embourgeoisement, tu sais, ces clubs-là, ça fait partie de l'esprit libre, de l'esprit sauvage, de l'esprit créatif. Il y a un côté justement, tu sais, très artistique à tout ça. Donc, en étant, en faisant partie de l'UNESCO, ben là, ça fera en sorte qu'il pourrait y avoir des sous, tu comprends, du gouvernement.
Ben moi, je leur souhaite. C'est vrai que ça fait partie du patrimoine berlinois. Ben, c'est intimement lié à leur histoire aussi. Tu sais, Berlin qui était une ville séparée par un mur, donc ce côté-là qui était plus festif, je veux dire, c'est intimement lié à leur identité. Là, moi, je trouve ça marche. Tu sais, je veux dire, si la ville d'Arvida s'inscrit pour être au patrimoine mondial de l'UNESCO, pourquoi pas Berlin et ses clubs?
Ben, pourquoi pas Berlin? Ça un autre Ben Clark. Écoute, ça t'as peut-être entendu ça à Berlin.
Le silence, tu veux dire?
Ou pas.
Il y a un jeune qui est dans un gang, là, vous auriez beau lui parler des gangs et faire de la prévention.
Je pense qu'on a... Hey, attends, c'est tellement drôle parce qu'on a Maria Mourani qui parle en arrière d'un beat très techno. On vient comme d'inventer de quoi. J'adore ça. Achille, arrête-nous ça, c'est terrible. Maria Mourani derrière un beat techno, c'est fantastique. Non, je ne l'ai pas entendu, Anaïs, parce que je dois te dire que je conserve un assez vague souvenir de ma soirée berlinoise.
Comme les plusieurs, clubs. C'est ça qui se passe.
Exactement, donc je devrais y retourner quand le variant Omicron se fera moins menaçant. Hey, parle-nous de la chicane entre Madonna et 50 Cent.
écoute, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, maman potin chaud de Geneviève Peterson.
Vas-y donc.
On a tous vu passer, je pense, les photos de Madonna publiées sur Instagram.
Mais
elle s'est
fait enlever, hein, ces photos. C'est-tu moi qui est en retard, là, censurée?
Non, il y en a. En fait, on a censuré quelques-unes de ces photos. Tu comprends? Parce qu'il y en a une, entre autres, où on voit un petit bout du mamelon. Ouais. Et Madonna même est sortie elle-même disant, c'est incroyable quand même, parce que ceux qui n'ont pas vu les photos, elle est vraiment écartée au sol avec des bottes gilets.
On y voit le derrière.
On y voit le derrière. On y voit tout. Puis elle a dit justement, c'est tellement particulier que je puisse là, être dans des positions aussi osées qu'on voit de la peau. Ça, c'est pas grave, mais un petit bout du mamelon, ça ne passe pas. Et là, sur ces photos qui ont été saluées par ses fans, d'autres les ont critiquées. Il y a un certain 50 Cent, ce chanteur qui a déjà été ami avec Madonna il y a une vingtaine d'années.
C'est pas lui qui faisait des vidéos douteuses là, de madame qui se prosternait à ses pieds et qui mimait des fellations. Le Candy Shop, c'est pas tout à fait édifiant.
Oui, Candy Shop. Okay. Candy Shop a été écrite dans un avion en 20 minutes environ.
C'est pas étonnant.
Puis ça a été, c'est pas étonnant, mais en même temps, il a fait des millions et des millions. Et 50 Cent s'est allé commenter, imagine-toi, la photo de Madonna. Que j'aime bien, 10 ans.
Il a dit flotte.
Ouais, mais pas pour dire. Et regardez-la qui essaie de jouer à la Vierge. Et plus loin, il a parlé de son vieux cul de 63 ans.
Son vieux cul?
De 63 ans. Et à la Vierge, parce que bon, Madonna, like a virgin, tu comprends? Et là, tu sais, il essaie de dire, c'est pas de me faire croire qu'à 63 ans, t'es vierge malgré tes positions. C'est assez particulier. Donc là, Madonna.
Mais c'était quoi son idée? Il était sous? C'était quoi son
problème? Ben, on le sait pas trop, mais ça a vraiment fait le tour du monde, tu comprends? Parce que là, il y a eu le clan, notamment, fin de semaine, 50 Cent, qui disait que c'était de l'humour, le clan Madonna. Madonna est sortie dans des stories disant à quel point ça l'avait blessée. Elle a sorti des photos de elle et 50 Cent disant « Hey, on était amis, comment tu peux dire des choses comme ça? » Tu sais, Madonna qui est très justement « vivre et laisser vivre, tu sais, c'est notre corps, on fait ce qu'on en veut. » Donc là, 50 Cent s'est excusé. Geneviève, 10 ans qu'il n'avait pas réalisé à quel point il avait pu être méchant à l'égard
c'est
de Madonna. Blague. Donc,
une
les
blague.
Deux ne ce sont plus en chicane.
Bon, ben c'est excellent. Puis moi, je trouve ça fascinant à quel point ces photos de Madonna ont circulé. Je pense que c'était exactement ce qu'elle voulait. La Madonna qui considère son corps comme une œuvre d'art contemporain. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Ben j'embarque tellement. Puis dans les photos, tu revois Tyra Banks qui aujourd'hui célèbre son anniversaire, a mis des photos d'elle. Ça aussi, ça fait beaucoup jaser parce
qu'on
la voit
sexy.
En forme.
Oh.
Et elle dit justement qu'elle aime son corps avec les formes qu'elle a maintenant.
Oui.
Et ça a été salué par plusieurs artistes, plusieurs mannequins aussi.
Oui. Mais j'ai vu Guillaume Lepage aussi parler de l'apparence physique de Madonna, puis dire que, bon, le sous-texte, c'est que ça avait comme pas vraiment de bon sens. Tu sais, c'est quand même fascinant comment ça suscite les commentaires, les femmes qui font des interventions, modifient leur apparence physique, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui est concernée, c'est elle, c'est Madonna, ça veut ressembler.
Moi, je l'aime, Madonna.
Bon, écoute, moi, j'ai pas d'opinion sur ce qu'elle fait avec son corps. J'aime encore Like a Virgin. Merci, Anaïs, on se retrouve demain. À vous, les auditeurs, à demain, 13h.
Cube Radio.